Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 6h57, excellent réveil à tous, 6h57 sur RMC et RMC Story. On est ensemble jusqu'à 9h. Nous sommes le vendredi 22 mai, c'est bientôt le week-end et un week-end peut-être prolongé pour certains d'entre vous. Et il fera beau. Allez, on revient sur ces aides annoncées, carburant renforcé, plus 700 millions d'euros au total. Des nouvelles professions qui vont être soutenues, mais toujours pas de chèque généralisé. Et puis des professions qui se disent oubliées, les infirmiers, les taxis, les dépanneurs. Les réponses du gouvernement face à la crise énergétique, est-ce que vous estimez que c'était suffisant? On en débattra à 7h50 entre notre voix de droite, Charles Consigny, et notre voix de gauche, Cécile Duflot. Et puis, je vous attends, vous, au 32-16. Venez donc témoigner et nous dire au quotidien ce que cette crise du carburant a changé. Et si vous avez déjà demandé les aides, parce que moi, j'aimerais bien aussi savoir, derrière les effets d'annonce, combien véritablement ont été sur les sites, les guichets, les demandes, les démarches. Est-ce que vous avez fait ces démarches? Est-ce que vous avez commencé à voir la couleur, le début de la couleur d'une aide? Dites-nous au 32-16. Marine Le Pen, elle, réclame une baisse des taxes sur l'énergie. Elle dénonce des mesurettes du gouvernement. Elle s'insurge aussi sur le retour des ZFE parce que le Conseil constitutionnel hier a censuré l'annulation des ZFE, les ZFE qui sont donc réinstallés. Marine Le Pen est mon invitée pour un face-à-face exceptionnel ce matin. 30 minutes de questions, mes questions mais aussi les vôtres bien sûr. Vous nous appelez dès maintenant au 32-16 pour poser vos questions à Marine Le Pen. Vous pouvez aussi me les envoyer sur le WhatsApp de l'émission 06 12 424 424. Et puis vous le savez, on vous couvre de cadeaux. Il n'y a plus que quelques jours pour gagner des cadeaux exceptionnels pour la Coupe du Monde. Il y a encore des télés, des maillots et même un chèque de 10 000 euros qui se cache derrière la sélection des joueurs. Une alerte d'ici 8 heures pour jouer à la liste des 26. Restez bien à l'écoute d'RMC. Il est 6h59, dans un instant le journal. Et tout de suite la météo, il continue à faire très beau, très chaud.
Ah, il va faire, oui, même de plus en plus chaud. Ce qu'on va vivre là, c'est vraiment exceptionnel pour un mois de mai. C'est du jamais vu avec des températures qui vont atteindre des sommets dans le ciel. J'ai pas grand chose à vous dire parce que c'est vraiment que du soleil, du ciel bleu sur tout le pays toute la journée. Et puis donc ces températures, alors déjà élevées ce matin, on atteint déjà les 17-18 degrés sur le sud-ouest. Cet après-midi, localement, on pourrait atteindre 35 degrés en Aquitaine. Il fera 33 degrés pour Bordeaux, Biarritz, 31 à La Rochelle, 30 à Lyon, à Nantes, 29 à Paris, 27 à Marseille, 26 à Lille et un petit 24 degrés à Nice, si je puis dire, là où il va faire le moins chaud. Et donc la chaleur qui va s'accentuer encore dans les prochains jours avec un pic lundi, qui devrait vraiment être la journée la plus chaude jamais vue pour un mois de mai.
Il est 7h, excellent réveil à tous, merci d'avoir choisi RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texa, bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Des aides prolongées et élargies mais toujours ciblées. Sébastien Lecornu a présenté le nouveau paquet du gouvernement pour soutenir l'activité face à la crise énergétique. En plein conflit au Moyen-Orient, 710 millions d'euros d'aides supplémentaires avec un effort demandé aux entreprises. Vous entendrez dans ce journal également le témoignage de l'homme qui a retrouvé au bord d'une route au Portugal deux enfants de nationalité française âgés de 4 et 5 ans, abandonnés par leur mère et son compagnon. Ils ont été interpellés hier et Lens, grand favori pour soulever la Coupe de France ce soir face à Nice, 21h sur RMC.
On n'a pas fini de subir, voilà les mots de Sébastien Lecornu.
En conférence de presse hier, le Premier ministre a détaillé les nouvelles aides du gouvernement, 710 millions d'euros, je vous le disais, pour soutenir l'activité face à un conflit au Moyen-Orient qui va durer. Le pays doit tourner, c'est ce que dit Sébastien Lecornu, contraint de s'adapter.
On va changer d'échelle, soit dans ce que nous mettons sur la table, quantitativement, soit aussi parce que nous étions plutôt partis pour annoncer des aides pour le mois de juin, mais c'est pas ce que nous allons faire. Là, désormais, il faut commencer à donner des perspectives à des pans entiers de l'économie, des perspectives aux Françaises et aux Français qui travaillent, et donc c'est non seulement une réflexion pour juin, pour juillet, pour août, et pour certains secteurs, jusqu'à l'automne.
Sonia Gobry, service politique RMC, nous rejoint. On va faire le point avec vous sur ces perspectives annoncées donc par le Premier ministre, à commencer par la reconduction des aides pour le secteur du bâtiment, les pêcheurs, les agriculteurs et les transports. Mais ce n'est pas tout, Sonia. D'autres professions vont être soutenues par le gouvernement.
Oui, certains fonctionnaires comme les AESH, les professeurs remplaçants, vont bénéficier d'une revalorisation de leurs indemnités kilométriques, 20 centimes par litre de carburant. Pareil pour les aides à domicile qui sont majoritairement des femmes à temps partiel, avec un salaire moyen moyen à 700 euros par mois. Elles pourront aussi demander l'aide aux grands rouleurs qui passe de 500 à 100 euros. Environ 3 millions de travailleurs modestes qui roulent beaucoup vont en bénéficier. Doublement aussi du plafond de la prime carburant de 300 à 600 euros. Le dispositif est simplifié, beaucoup moins de justificatifs à fournir pour les salariés, mais ça reste facultatif. Les entreprises sont libres de verser ou non cette aide défiscalisée.
Pas question en revanche d'ouvrir les vannes. Sonia, le Premier ministre veut garder le contrôle sur les finances de l'État.
Oui, Sébastien Lecornu avance sur une ligne de crête. Il faut aider davantage les travailleurs. Il le dit lui-même, on n'a pas fini de subir cette crise énergétique. Aider, oui, mais sans creuser le déficit déjà élevé. C'est pour ça que Sébastien Lecornu refuse toute baisse de fiscalité sur les carburants. Il se fixe une règle, chaque aide, chaque dépense devra être gagée, c'est-à-dire compensée par des économies. Pour l'instant, le gouvernement ne donne pas plus de détails, mais il prévient, pas question pour le gouvernement de faire des cadeaux bizarres au mois de mai qui se transforment en augmentation d'impôts à l'automne.
Une situation économique et un contexte international instable qui encourage les Français à bouder un peu plus. Le livret A, près de 1,3 milliard d'euros ont été retirés en avril au profit de produits d'épargne mieux rémunérateurs. C'est un record depuis 2009. Il est 7h03. Vous écoutez RMC. On en vient à l'interpellation de cette Française hier au Portugal. Une mère de famille originaire de Colmar soupçonnée avec son compagnon de maltraitance, mise en danger et d'abandon. Celui de ses deux jeunes enfants de 4 et 5 ans signalé disparu depuis une dizaine de jours par leur père à Colmar. Ils ont été retrouvés à une centaine de kilomètres au sud de Lisbonne mardi au bord d'une route repérée, Philippine Boulet, par un automobiliste.
Alexandre est au volant quand il aperçoit deux petits garçons, seuls, assis au bord d'une route nationale, alors il ralentit.
Je les ai vus venir vers moi, ils criaient, ils pleuraient. Ils étaient complètement déboussolés. J'étais très inquiet, alors je les ai fait monter dans ma voiture.
Il les conduit à la boulangerie familiale, prévient la gendarmerie, seulement les enfants parlent français. Sur place, personne ne les comprend. Alexandre appelle une amie bilingue pour traduire. Les garçons expliquent alors que leur mère et son compagnon les ont emmenés près d'un bois quelques heures plus tôt.
Ils ont raconté que leurs parents leur avaient bandé les yeux et leur avaient dit d'aller dans la forêt chercher un jouet. Et puis ils sont partis en les laissant là-bas. Et ça, ça m'a brisé le cœur.
Alexandre a rassuré et nourri les deux enfants avant que les gendarmes ne les prennent en charge. La justice française dit examiner, en lien avec les autorités judiciaires portugaises, les conditions de leur retour en France.
Une procédure judiciaire a été ouverte par les autorités portugaises afin de comprendre les circonstances de cet abandon. Les suites de ce vaste coup de filet en lien avec le périscolaire parisien, 3 des 16 personnes interpellées mercredi matin vont être présentées à un juge d'instruction aujourd'hui. 2 hommes et une femme soupçonnés de gestes à caractère sexuel présumés sur une vingtaine d'enfants. Les 13 autres gardés à vue dans ce dossier ont été relâchés. Ils sont depuis longtemps décrits comme les ennemis de nos enfants, les écrans. Et il y a bien des raisons à cela. C'est ce que nous dit un rapport de l'Observatoire français des drogues et tendances addictives publiée ce matin, une étude scientifique sur la santé physique et psychique des enfants et des jeunes adultes qui nous apprend un peu plus, Bérangère Bouquillon, sur les risques réels de l'exposition au numérique.
Oui, le danger ne vient pas tant du nombre d'heures passées sur un écran que de ce que l'on y fait. Le plus toxique pour le cerveau étant de passer d'une vidéo ou d'une application à une autre en moins de 20 secondes. Une fragmentation extrême de l'attention qui excite, favorise même des inflammations sanguines et tout ça sans qu'on ait besoin de bouger. Autre conséquence, une épidémie mondiale de myopie mais aussi un vieillissement accéléré de la colonne vertébrale à cause des flexions cervicales pour regarder son écran. Et puis les enfants sont impactés par le smartphone des parents, qui agit comme un mur auditif, dit le rapport, ralentissant l'acquisition du langage. Conclusion, il faut sanctuariser la chambre et les repas, interdire tout écran avant 3 ans et renoncer au smartphone avant 15 ans.
Du monde sur la route aujourd'hui, début d'un long week-end de Pentecôte, c'est rouge dans le sens des départs, orange dans le sens des retours, avec des ZFE sur votre trajet peut-être, rétabli par le Conseil constitutionnel qui annule la suppression de ces zones visant à lutter contre les voitures polluantes. Et pour rouler propre, pourquoi ne pas vous offrir une 2 chevaux? Le groupe Stellantis va ressusciter ce modèle mythique de Citroën en version électrique à moins de 15 000 euros, sortie prévue pour 2028, 80 ans après sa création. C'est l'événement ce soir sur RMC 21h. La grande finale de la Coupe de France. D'un côté Nice menacé de relégation, de l'autre le Dauphin du Paris Saint-Germain en Ligue 1. Lens, grand favori de cette finale au Stade de France. Des milliers de supporters lensois ont fait le déplacement pour l'occasion avec l'espoir de soulever le trophée pour la première fois de leur histoire, Jean Baumel.
Oui, le Stade de France sera aux couleurs sang et or. Plus de 50 000 supporters lensois sont attendus à Saint-Denis et ils espèrent vivre un grand moment.
La finale de Coupe de France, ça me fait vraiment plaisir et j'espère avoir la chance de pouvoir vivre toute l'émotion de cette victoire.
Normalement, c'est victoire. Contre Nice, là, avec les problèmes qu'ils ont, normalement, c'est victoire vendredi. Il n'y a pas de choix, là.
Avec cet énorme soutien populaire, le milieu de terrain Adrien Thomasson ne pense qu'à récompenser ses supporters.
On espère, nous, sur le terrain, faire le nécessaire parce que avec autant de public, autant de gens qui vont nous soutenir, que ce soit à Lens ou ici au Stade de France, on aura à cœur de leur rendre cette confiance.
Après une deuxième place en Ligue 1 et une qualification pour la Ligue des Champions, l'entraîneur lensois Pierre Sage voudrait donner un titre au peuple lensois.
On a aussi le devoir de représenter tout un peuple, toute une histoire qui jusqu'à maintenant n'est pas aboutie dans cette compétition. Donc on a la volonté de porter haut et fort nos couleurs pour justement réparer cette anomalie.
Pour sa quatrième finale de Coupe de France de son histoire, Lens espère enfin la gagner et faire la fête toute la nuit.
Lens Nice, 21h ce soir sur RMC.
C'était le journal de Thibaut Texer. Il est 7h08 sur RMC. Des aides pour les profs. Les profs aussi vont être aidés. Aide carburant pour les professeurs remplaçants, notamment ceux qui ont besoin de leur voiture. Bonjour Edouard Geffray.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio ce matin. Vous êtes le ministre de l'Éducation nationale. Je vous interroge évidemment sur cette aide. Et puis on reviendra sur le film, sur les derniers jours de Samuel Paty. Le film et avant cela le procès de ceux qui avaient participé à l'engrenage. La position de l'Éducation nationale là-dessus, vous nous la donnez dans un instant. Ne bougez pas, on se retrouve dans quelques secondes, il est 7h08.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h12 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Il y aura des aides pour les profs. Bonjour Edouard Geffray.
Bonjour.
Vous êtes le ministre de l'Éducation nationale. Les professeurs remplaçants vont donc être amenés, eux, tout comme les AESH qui roulent beaucoup, à être aidés. Pourquoi seulement eux et pas le reste des profs qui, pour certains, aussi prennent leur voiture?
Alors, c'est tous ceux qui bénéficient de ce qu'on appelle des indemnités kilométriques. Très concrètement, c'est-à-dire des gens qui, des collègues, qui en fait, pour aller d'un point à un autre au titre de leur profession, sont obligés d'utiliser leur véhicule personnel. Donc c'est effectivement les professeurs remplaçants, ce sont les inspecteurs, ce sont aussi par exemple les professeurs qui vont devoir se déplacer plus loin que d'habitude pour le baccalauréat. Donc tous les examinateurs du bac qui vont aller dans d'autres établissements que leur établissement habituel vont pouvoir en bénéficier, ce qui est logique à mon sens.
Donc ça s'applique de manière immédiate, puisque si ça s'applique pour le bac, c'est...
Le 1er juin, c'est une revalorisation temporaire du 1er juin jusqu'au 31 décembre.
Donc, il n'y aura pas ensuite d'élargissement aux autres profs qui, pour certains, peuvent vous dire « Écoutez, moi, je roule beaucoup pour aller à mon établissement » ou... Non, ça n'a pas vocation à s'élargir davantage.
Parce que simplement, on a un outil qui s'appelle l'indemnité kilométrique et qui indemnise précisément ce type de déplacement. Et donc, c'est ça qui est revalorisé à hauteur de 20 centimes d'euros par litre de carburant à peu près.
Edouard Geffray, je le disais, vous êtes le ministre de l'Éducation nationale. Il y a ce film L'Abandon, on va y revenir, qui revient sur les derniers jours de la vie de Samuel Paty et l'engrenage qui a conduit à sa mort. Avant cela, il y avait eu le procès en appel de Samuel Paty. Et le verdict avait été rendu en mars dernier. Vous vouliez revenir également, lorsqu'on a préparé cette interview, vous avez dit à mon équipe qu'il y avait eu des propos de l'avocat qui, à l'époque, vous semblaient inadmissibles. Ça veut dire que vous faites référence sans doute aux propos de maître Francis Villemain, l'avocat du prédicateur Abdelhakim Sefrioui. Les mots exacts qui avaient été utilisés par l'avocat, c'était, je cite, Samuel Paty procédait à la discrimination des élèves musulmans. Il l'avait dit lors de l'ouverture de ce procès. Au nom de l'Éducation nationale, aujourd'hui, vous dites quoi?
Alors d'abord, tout ce qui s'est passé dans le prétoire relève du prétoire. C'est-à-dire qu'un avocat peut dire quasiment tout ce qu'il veut à l'intérieur du tribunal et devant un juge. Et ça, il n'y a pas de problème et ce n'est pas discutable. En revanche, j'ai une question effectivement déontologique sur ce qu'a dit cet avocat à la télévision, à la presse, donc dans l'espace public. Puisque vous savez que
en marge du procès.
En marge du procès, donc tout à fait, c'est deux choses différentes. Il y a la stratégie de défense au procès, qu'il ne faut pas toucher. Et puis, est-ce qu'il a dit de manière assez véhémente, et qui objectivement, je crois, a heurté beaucoup de collègues de la communauté éducative, parce qu'il a clairement sali la mémoire de Samuel Paty. Et il se trouve que dans le code de déontologie des avocats, il y a ce qu'on appelle un devoir de délicatesse et de courtoisie, de mémoire, de modération, à l'extérieur du prétoire. Et donc, effectivement, j'ai souhaité saisir le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris de la question déontologique, puisque vous savez que les avocats sont une profession réglementée, donc c'est à eux d'examiner la question. Les avocats eux-mêmes, d'ailleurs, étaient très divisés au moment où c'est passé, certains disant... Là, quand même, on est quand même un peu au-delà du cadre habituel de l'expression déontologique d'un avocat. Et donc, j'ai souhaité que les avocats, entre eux, puissent se poser la question de savoir si ces propos étaient finalement déontologiques.
Donc, vous nous annoncez ce matin, monsieur le ministre, que vous saisissez le bâtonnier du barreau de Paris de ses propos.
J'ai effectivement signalé ses propos au bâtonnier de Paris en lui faisant part de mes interrogations au regard du code de déontologie des avocats.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que potentiellement, vous estimez que maître Francis Vuillemin pourrait être sanctionné par ses pairs ?
Ça, c'est pas moi de le dire, c'est au Conseil d'ordre des avocats. Mais en revanche, je considère que les propos qu'il a tenus ont été suffisamment choquants et pour les professeurs et pour une partie de ses confrères pour que le Conseil d'ordre des avocats se penche et se pose la question. On est vraiment dans la zone grise, mais je trouve que vu l'ampleur du débat et vu ce que ça a, vu la façon dont ça a été vécu par l'institution, ça valait la peine d'avoir la question qui soit posée.
Le film, L'abandon, pour vous, il doit être montré aux collégiens, aux lycéens?
Moi, je pense que le film L'abandon, d'abord, je l'ai vu. Et je pense que c'est un film qui est objectivement d'intérêt public pour les Français. Y compris parce que je trouve qu'il est en fait dans un ton assez juste. Il relate les faits de manière très linéaire, très à plat. Il pointe pas tel ou tel, il relate les faits. Je suis pas partisan de l'obligation. C'est-à-dire que je crois pas qu'il faille obliger les professeurs à aller voir, ni les élèves. Moi, j'ai croisé des professeurs qui avaient envie de le voir, d'autres qui m'ont dit « je ne serais pas capable de le voir ». Je ne vais pas forcer qui que ce soit à y aller. Mais que collectivement, on se dise, compte tenu une fois encore de l'impact que ça a eu, collectif, dans notre société, que c'est utile d'y aller, ça, je crois que oui, effectivement.
Donc, vous ne vous prononcez pas sur le fait qu'il soit présenté aux élèves ?
Moi, je pense qu'il peut être présenté aux élèves. Il y aura d'ailleurs un dossier pédagogique qui va être fait. Mais en revanche, je ne souhaite pas imposer aux professeurs d'emmener leurs élèves le voir. Je crois qu'il y a un truc qui s'appelle la liberté pédagogique. C'est une autre caractéristique fondamentale de notre institution. Donc c'est à chaque professeur de voir s'il le souhaite. En revanche, on mettra à disposition des professeurs qui le souhaiteraient un dossier pédagogique pour les aider tout simplement à entrer dans ce film avec leurs élèves. Je rappelle que beaucoup d'élèves, beaucoup de jeunes aujourd'hui qui iront voir ce film étaient trop jeunes à l'époque.
Ça veut dire, monsieur le ministre, ça veut dire que vous laissez la liberté, comme vous dites, mais vous laissez aussi dans ce cas-là la responsabilité. Est-ce qu'aujourd'hui, ça n'est pas... alors, j'allais pas dire abandonné, parce qu'évidemment, je vais pas reprendre le mot le titre du film, mais au fond, en disant ils ont la liberté de le faire, ça veut dire aussi que vous allez mettre en première ligne à nouveau des professeurs qui, pour certains, parce qu'ils auront décidé de le montrer, vont pouvoir potentiellement être considérés comme responsables, devoir se justifier. Voilà, ils vont devoir se justifier de présenter ce film.
Alors, non, personne n'aura à se justifier, parce que précisément, ce qu'on dit, c'est que c'est un film qui a suffisamment... C'est un film qui porte sur des faits qui ont suffisamment ébranlé l'institution pour qu'un professeur soit évidemment en droit total de le montrer. En revanche, je ne me vois pas dire à un professeur « vous êtes obligé d'y aller à votre classe ». Ça n'aurait objectivement
aucun sens. Oui, mais vous comprenez bien que ça veut dire qu'il va devoir justifier auprès de ses élèves de le présenter.
Non, puisque précisément l'institution considère que c'est un film qui est parfaitement montrable, et que c'est même d'intérêt public de le montrer.
Vous avez entendu peut-être les propos, notamment de cet influenceur à la sortie du film à Cannes, Raphaël Garcia, et cet échange avec un jeune homme qui regardait le film, c'est beaucoup passé sur les réseaux sociaux, qui accusait ce film d'être contre les musulmans, de donner une mauvaise image, disait-il, des musulmans.
Écoutez, on l'a vu à plusieurs avec mon équipe, aucun d'entre nous n'est ressorti avec un quelconque sentiment de cette nature. Et moi, ce que j'ai vu à Cannes, c'est 2400 personnes debout, les larmes aux yeux, applaudir pendant l'intégralité du générique. En tout cas, c'est ce que j'ai vu à distance. Mais c'est plutôt ça que je retiens.
Merci d'avoir répondu à mes questions ce matin. Édouard Geffray, vous êtes donc ministre de l'Éducation nationale. Vous venez de nous annoncer que vous avez saisi donc le bâtonnier de Paris après les propos de maître Vuillemin qui accusait Samuel Paty d'avoir procédé à de la discrimination envers les élèves musulmans. Il est 7h19 sur RMC et Arthur Chevalier vient de rentrer dans ce studio. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, Emmanuel Macron a pris la parole hier à l'Élysée. Écoutez.
Le silence, voire l'indifférence que nous maintenons depuis près de deux siècles à l'égard de ce code noir, n'est pas un oubli, mais est devenu une forme d'offense.
Le code noir, de quoi s'agit-il, Arthur ?
Eh bien, c'est un texte qui régit l'esclavage dans les îles françaises, un texte honteux, jamais aboli officiellement.
Et vous nous le racontez dans un instant. Il est 7h20, on se retrouve donc dans 50 secondes. Ne manquez pas aussi Arnaud Demange qui arrive pour pirater le face-à-face. Mon invité ce matin, c'est Marine Le Pen.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h21 et vous êtes bien sûr RMC et RMC Story. Quand l'histoire éclaire notre actualité, comme chaque matin avec Arthur Chevalier. Arthur, hier soir, Emmanuel Macron s'est prononcé en faveur de l'abrogation du tristement célèbre Code Noir.
Mais oui, un geste fort du président, car un vote aura lieu jeudi prochain à l'Assemblée, justement pour abroger ce Code Noir. Même si en France, l'esclavage a été aboli en 1848, ce code est encore formellement en vigueur. Pour Emmanuel Macron, je cite, « son maintien pendant toutes ces années est une trahison de ce qu'est la République ». Alors bien sûr, juridiquement, cette abrogation ne changera rien puisqu'il n'y a plus d'esclaves depuis longtemps. Mais c'est un acte symbolique qui a une très grande importance.
Le Code Noir, à l'origine, qu'est-ce que c'est ?
Alors, à l'origine, c'est un texte conçu à la fin du XVIIe siècle, sous le règne du roi Louis XIV. À cette époque, la France a déjà colonisé des îles, notamment la Martinique et la Guadeloupe. C'est dans ces îles qu'on pratiquait l'esclavage des Noirs. Mais alors attention, parce que pour comprendre cette histoire, il y a autre chose à retenir. L'esclavage était autorisé sur les îles françaises, mais pas en métropole, hein, dans l'Hexagone, si vous préférez. Il y avait donc deux situations légales différentes pour un seul et même État.
Et c'est pour ça qu'on a écrit le Code Noir ?
En partie, le Code Noir, c'était une compilation de règlements pour les îles. La personne qui a dirigé la rédaction de ce code, c'est Colbert, l'équivalent du Premier ministre du roi Louis XIV. Sauf que Colbert va mourir avant de le terminer, c'est donc son fils qui va le finir en 1685. Alors à cette date, ça ne s'appelle pas le Code Noir, hein. On lui donne ce nom après, ça s'appelle l'ordonnance de 1685.
Qu'est-ce qu'on trouve dans ce Code Noir ?
Alors la première chose, évidemment, c'est qu'il autorisait l'esclavage dans les colonies. Ensuite, c'était des règles relatives au commerce et au traitement des esclaves. D'après ce code, les esclaves étaient des sortes d'objets qui pouvaient être vendus, achetés ou donnés. Ce règlement autorisait aussi les châtiments corporels, qui allaient du fouet à la peine de mort, en passant par les oreilles coupées et des tonnes d'autres punitions inhumaines. Ce texte était aussi fait pour imposer le pouvoir royal dans les colonies, donc il y avait des dispositions qui ne concernaient pas l'esclavage, mais l'organisation dans l'administration en général.
Le Code Noir, il donnait aussi des pouvoirs aux propriétaires d'esclaves ?
Alors oui, les colons, alors ils avaient aussi des devoirs. Les colons devaient nourrir et vêtir correctement leurs esclaves. La torture et les abus sexuels étaient interdits. Alors attention, hein, ça c'est le principe, car il faut bien admettre que les principes étaient très très rarement appliqués. Je précise que ces dispositions ne retirent évidemment rien à la monstruosité de la chose.
Merci Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. Une chronique qu'on peut retrouver à tout moment en podcast sur le site et l'application d'RMC. C'est l'heure d'Arnaud Demange.
RMC.
Demange Pirate, le face-à-face.
Et bonjour.
Bonjour.
Bonjour Arnaud. À 8h25 tout à l'heure, de 8h25 jusqu'à 9h d'ailleurs, mon invité dans le face-à-face, ce sera la chef des députés RN à l'Assemblée et candidate à l'élection présidentielle, Marine Le Pen.
Oula. Ouh là là, attention, gros dossier, faudra être concentré pendant l'interview à Pau, hein. Parce que bon, quand c'est Gilles qui appelle le vendredi, ça va, c'est quasiment le week-end, quoi. Vous pouvez l'envoyer sur les Alaouites du secteur ouest de Téhéran et hop,
ça déroule.
Ouais, il part en roue libre pendant 20 minutes, on peut penser à autre chose pendant le face-à-face, c'est assez cool et tout. Mais là, attention, Marine Le Pen, elle démarre donc sa tournée d'adieu en tant que candidate à la présidentielle. C'est comme Aznavour ou Johnny. Alors si vous êtes fan, notez les dates car Marine sera le 24 à Europe 1, le 26 à France Inter, le 28 sur CNews, le 30 dans Okapi, le 1er juin dans Motojournal, le 3 au Meilleur Pâtissier, avant de finir la tournée en apothéose le 7 juillet sur BFM TV chez nous pour son grand concert d'adieu. Et Marine Le Pen est condamnée par la justice, elle ne sera pas candidate. On l'écoute réagir. Nous nous reverrons un jour ou l'autre. Le monde est petit, profitons-en. Marine sera remplacée, ou serait remplacée, par Jordan Bardella. Alors Jordan, qui subit en ce moment un truc, il est éclaboussé par un scandale qui touche la famille de sa compagne, Maria Carolina des Deux Siciles, des Trois Cafés Gourmands et des Quatre Fromages. La famille de Bourbon des Deux Siciles est accusée de corruption et de détournement d'œuvres d'art par un média belge. Bon, au moins, on sait que Bardella n'est pas dans le coup, vu qu'il a jamais mis les pieds à Bruxelles. Et pourtant, il est député européen. On l'oublie, hein, on l'oublie. Et bah lui aussi. Le RN, à ce sujet, peine à trouver des banques françaises pour financer sa campagne présidentielle. C'est sûr que si c'est Jordan qui prend les rendez-vous au Crédit Agricole, ils vont galérer à avoir un prêt, hein. Très bien, alors comme travail, je vois que vous êtes député européen. Ah bon ? Concentre-toi, Jordan. Non, c'est pas Edwige Chevrillon, mais j'ai pas 50 000 voix.
La voix banque.
C'est la voix bancaire. Dans le jeu. Du coup, ça m'a flingué ma vanne. C'est pas grave. Mais celle d'après, on rigole quand même. Comment ils pourraient financer leur campagne? Ils vont quand même pas demander à un dictateur africain.
Non. Ouais, il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes.
Hein. Et oui, ils ont eu des problèmes. Et puis Bardella en Afrique, il ferait des gaffes. Il ferait oh là là, il y a beaucoup d'étrangers dans votre pays. Je pensais que chez nous, il y en avait plein, mais vous, c'est l'invasion. Bon, monsieur le vigile, vous pouvez dire au président que je suis arrivé? C'est moi le président. Oh, pardon, désolé. Et après, il va finir par aller demander à Trump. Oh, je suis déçu, Jordan, tu es venu sans ta fiancée, Maria des deux chevaux et des quatre fantastiques. Elle est tellement jolie. So nice, j'aurais aimé la rencontrer. Elle est un peu vieille pour moi, elle a déjà 22 ans. Mais quand on l'écoute parler, on dirait qu'elle en a 12, j'adore, ça rappelle des souvenirs. Et puis enfin, notez que si Marine Le Pen va en prison, elle pourra sortir un livre. Et si elle en vend autant que Nicolas Sarkozy, il y aura quand même de quoi financer un meeting ou deux. Ça se termine bien cette affaire. Rendez-vous avec Marine Le Pen à 8h25.
Et avec vos questions, vous n'hésitez pas, vous nous les envoyez, vos questions à Marine Le Pen au 3216 ou sur le WhatsApp de l'émission 06 12 424 424. Arnaud, on vous retrouve à 8h15. Et puis tiens, à 7h27, c'est le moment de jouer. C'est le moment de jouer, mais oui, c'est le moment de jouer et de gagner, parce qu'il reste à gagner un vidéoprojecteur, un maillot des Bleus, un ballon officiel, une boîte Lego de trophée. Ça, c'est pour le pack Coupe du Monde. Mais il y a encore un baby, il y a même un chèque de 10 000 euros, tiens, qui est encore caché. Mais oui, Mathieu, dans le dans la sélection des Bleus. Bref, vous envoyez tout de suite liste au 7-32-16. Il y a plein de cadeaux. Liste au 7-32-16. Liste au 7-32-16. Vous avez 5 minutes pour vous inscrire. Il est 7h27. À tout de suite pour la météo du journal. Il est 7h30 et il fait très beau, très chaud.
Et il va faire même de plus en plus chaud. Alors le beau temps, oui, c'est du soleil, absolument pour tout le monde. Toute la journée, du ciel bleu. Les températures qui grimpent, on atteint déjà les 17-18 degrés sur le sud-ouest ce matin. Cet après-midi, on pourra avoir des pointes jusqu'à 35 degrés en Aquitaine. Il fera un petit 24 degrés à Nice, c'est là qu'il fera le moins chaud. On aura 26 à Lille, à Montpellier, 27 à Marseille, Brest, 29 pour Paris, 30 à Lyon ou Nantes, 32 à Toulouse, 33 pour Bordeaux et Biarritz. Et il fera encore plus chaud dans les prochains jours, notamment le pic attendu lundi, qui devrait être la plus chaude journée d'un mois de mai jamais vue pour l'instant en France.
7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Victor Porcher. Bonjour Victor.
Bonjour Apolline et bonjour à tous. Ils ont seulement 16 à 18 ans. Quatre adolescents ont passé la nuit en garde à vue près de Lyon, soupçonnés d'être à l'origine d'un incendie mortel sur fond de trafic de drogue. Des aides carburants élargies, doublées et prolongées, mais des taxis, des dépanneurs, des infirmiers qui se sentent toujours délaissés. Et puis mise en place, supprimée et désormais définitivement rétablie. Depuis hier, on reviendra sur le retour des ZFE, ces zones interdites aux véhicules les plus polluants.
Leur âge choque particulièrement. Ce sont quatre adolescents qui se réveillent en garde à vue ce matin.
Une dizaine de jours après un incendie mortel à Décines, près de Lyon, le dernier étage d'un immeuble parti en fumée, tuant trois personnes. Enquête ouverte pour homicide volontaire en bande organisée. Clara Gabillet avec nous en direct. Clara, sur les quatre gardés à vue, deux sont mineurs.
Oui, les interpellés sont très jeunes, entre 16 et 18 ans, précise le procureur. Ils ont été arrêtés hier en région lyonnaise, soupçonnés chacun d'être impliqué à des degrés divers dans cet incendie criminel. C'était il y a 10 jours dans un immeuble de la banlieue de Lyon, quartier populaire de Décines, tout près du stade de l'Olympique Lyonnais. Le procureur indique que la thèse du règlement de compte est une piste sérieuse. Pourtant, aucune des trois victimes ni leur entourage n'était connue de la justice. Un homme de 28 ans et sa tante de 61 ans. Leur corps découvert dans un appartement du dernier étage, celui d'un autre homme de 28 ans, avait lui été retrouvé au pied de l'immeuble. Il s'était jeté par la fenêtre pour échapper aux flammes.
Les précisions de Clara Gabillet pour RMC. Un blessé entre la vie et la mort, quatre autres en urgence absolue et 64 interpellations. C'est le lourd bilan, selon une source policière à RMC, des affrontements au bord du canal Saint-Martin qui ont eu lieu cette nuit à Paris. Des supporters niçois impliqués à quelques heures de la finale de la Coupe de France de foot. Lens-Nice, ce sera au Stade de France. Tous les détails dans le journal de 8h. Nouveau montant, nouveaux travailleurs concernés et nouveaux déçus. Les aides carburants annoncées hier n'ont pas convaincu. On fait le point. Le coup de pouce pour les gros rouleurs. couleur passe de 50 à 100 euros. Il est prolongé jusqu'à fin août, comme celui pour les agriculteurs, les transporteurs, les pêcheurs ou encore le BTP. Une liste de secteurs qui s'allonge, les aides à domicile ou encore certains fonctionnaires comme les profs remplaçants l'intègrent. Ce n'est pas le cas de tout le monde et les absences s'estiment laissées sur le carreau, Antonin Audion.
Infirmier depuis 5 ans dans les alentours de Nancy, Pierre fait plus de 100 km par jour et avec les prix des carburants, il doit déjà refuser des patients.
Une prise de sang pour moi aujourd'hui, c'est un déplacement pour aller au laboratoire, prendre le boîtier pour la prise de sang, un autre déplacement du laboratoire chez le patient, faire la prise de sang, revenir au laboratoire déposer ma prise de sang. Pour tout ça, j'ai 4 euros net.
Et pourtant,
on n'est même pas cité, on n'a aucune considération.
Même déception chez les dépanneurs, Luc Le Baron doit chaque semaine faire le plein des 7 camions de son entreprise.
On est passé encore à côté. Il y a un ras-le-bol qui est bien là, puisque les dépanneurs ont l'impression vraiment qu'ils sont à chaque fois oubliés, qu'on ne reconnaît pas leur utilité. Et c'est bien dommage.
Les chauffeurs de taxi, quant à eux, bénéficient d'une aide allant jusqu'à 5500 euros pour l'achat d'un véhicule électrique. Mais ce n'est pas du tout ce qu'espérait Dominique Buisson, secrétaire général de la Fédération nationale des taxis.
Nous changeons nos véhicules tous les 3 ans. Si le véhicule a été changé récemment, on ne va pas le changer comme ça, juste parce qu'on nous fait une offre.
Point commun entre ces 3 secteurs, ils réclament tous une baisse des prix des carburants directement à la pompe.
Mais pour ça, le Premier ministre refuse, par exemple, toujours de baisser les taxes, comme le réclame entre autres le Rassemblement national. Notez enfin que les entreprises qui le peuvent ont désormais la possibilité de verser à leurs salariés une prime carburant jusqu'à 600 euros exonérée de cotisations sociales. Toujours sur la route, et cette loi de simplification qui n'a jamais aussi mal porté son nom. Hier, le Conseil constitutionnel a rétabli les ZFE, ces zones interdites aux véhicules les plus polluants. Elles avaient été supprimées lors du vote de cette loi. Mais donc, Cyprien Pézeril, ce qu'ont fait les sages hier, attention, faut suivre, c'est supprimer cette suppression.
Oui, la circulation reste interdite pour les véhicules les plus polluants dans 25 ZFE, zones à faible émission. Les règles ne sont pas toujours les mêmes entre voitures et utilitaires et varient aussi selon les agglomérations. Tout dépend de votre fameuse vignette critère. Presque aucune interdiction à Nantes, Lille ou Bordeaux, mais à Paris, Lyon ou Montpellier, c'est beaucoup plus restrictif. Les voitures critères 5, 4 et 3 n'ont pas le droit de rouler. La législation, donc, ne change pas. Et avec cette décision du Conseil constitutionnel, près de 3 millions de véhicules doivent toujours rester au garage. Pour les sages, cette disposition est un cavalier législatif, en clair, comme un objet rangé dans le mauvais placard. Victoire, crient les écologistes. Scandale, réagit le RN qui dénonce un mépris du Parlement et promet de supprimer une fois pour toutes les ZFE en cas de victoire à la présidentielle.
Cyprien Pézeril du service politique de RMC. Le livret A poursuit sa chute vertigineuse. Chiffre publié ce matin par la Caisse des dépôts. Les Français ont retiré 1,28 milliard d'euros de ce plan d'épargne en avril. C'est le pire mois d'avril depuis 17 ans. Soit depuis que les données sont compilées. Gaël Monfils fête son dernier Roland-Garros. Début du premier tour demain, le tennisman de 39 ans, coqueluche du tennis français, aborde son ultime tournoi du Grand Chelem parisien et il a tenu à marquer le coup en organisant une grande soirée sur les courts Porte d'Auteuil, Maria Azé.
Ils étaient près de 15 000 sur le cours central, t-shirt à l'effigie de la légende du tennis français.
Dans le dos, on a noté les matchs qui nous ont le plus marqué, qui ont créé un amour inconditionnel pour Gaël.
Il a suivi toute notre vie en fait, et là on se rend compte que c'est son dernier Roland-Garros. C'est lui qui nous faisait lever du canapé, gueuler devant notre télé.
Au programme, un tournoi de double choisi par le public parmi un casting XXL. Gaël Monfils en double avec sa femme Elina Svitolina a un objectif.
J'ai jamais battu Novak et c'est peut-être aujourd'hui.
Dans une ambiance électrique, les Monfils remportent le tournoi puis vient le temps des hommages. Son ancien coéquipier Joe Wilfried Tsonga.
Je suis fier de lui, non seulement parce que ça a été un beau joueur de tennis, mais aussi parce qu'aujourd'hui c'est un papa. On habite à 1 km l'un de l'autre. Donc je t'aime mon frère.
Gaël Monfils conclut sa soirée très ému.
Vous avez été nombreux pendant plein d'années. J'ai pas été assez fort pour gagner un grand chelem, mais j'ai peut-être gagné plus. Et je sais que c'est pas aujourd'hui. Les remerciements et tout ça, c'est après le match que j'aurai gagné, j'espère.
Lundi, le joueur de 39 ans affrontera le Français Hugo Gaston et tentera de faire durer un maximum de temps ce dernier Roland-Garros.
Et il y a eu du lourd pour les Français lors du tirage au sort de ce tableau principal. Loïs Boisson hérite de la 22e mondiale. Kalinskaya, Giovanni Mpechipe et Richard tombent sur Novak Djokovic et Benjamin Bonzi sur le numéro 2, l'Allemand Zverev.
Et puis le quintet.
C'est à Vincennes aujourd'hui, départ à 20h15, le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Son favori, c'est le 8, Yanko Ofor, son outsider, le numéro 6. Gisou détend le 8 et le 6.
C'était
le
journal de Victor Pourchet, il est 7h37. Tiens, au 32-16, il y a Aurélie qui nous appelle de Mayenne. Bonjour Aurélie.
Oui, bonjour.
Aurélie, vous êtes prof. Il y avait votre ministre de tutelle qui était mon invité à 7h10 pour défendre les aides pour les professeurs remplaçants. Enfin bref, doublement donc des indemnités kilométriques. Comment vous réagissez-vous, Aurélie ?
Ben, tant mieux. Mais quand ? Voilà, à partir de quand et quand va-t-on être défrayé régulièrement de nos frais de déplacement ? C'est ça le problème.
C'est-à-dire que vous n'êtes pas prof remplaçante, vous êtes prof tout court ?
Non, moi je suis prof remplaçant, je suis professeur contractuel en CDI.
D'accord.
Après 85 CDD dans l'éducation nationale, j'ai été CDIsée au bout de 7 ans. Logique.
D'accord, c'est une mythe, ouais.
Donc, là je viens d'être défrayée de mes frais de mars parce que j'ai fait intervenir les syndicats. Parce que personne ne me répondait. Et en fait, ça devient un problème parce que moi, je fais une boucle de 200 km trois fois par semaine pour travailler.
D'accord.
Ce qui représente, avec les frais d'entretien du véhicule, les frais de carburant, quasiment un tiers de mon salaire.
Mais oui.
Voilà. Donc,
non, mais attendez. Et donc, vous devez les avancer et vous êtes. Enfin, et c'est un peu au petit bonheur de la chance de savoir quand est-ce que vous allez être remboursé, quoi.
C'est cela. C'est-à-dire que quand on accepte une mission en septembre, on sait pertinemment que nos frais de
remboursement ne seront remboursés.
Les déplacements commenceront à être payés qu'au mois de janvier.
C'est un frais réel ou c'est une indemnité kilométrique ?
C'est une indemnité kilométrique.
Ok, donc c'est bien ce qu'évoquait donc le ministre, elle va être doublée. Le problème, c'est que vous dites il y a un vrai problème ensuite de fluidité et d'efficacité, c'est-à-dire que vous êtes obligé. Là, en ce moment, ça veut dire que vous devez sortir quand même beaucoup d'argent.
Je sors une moyenne de 500 à 550 euros par mois pour travailler.
C'est du délire. Donc effectivement, pour vous, cette aide, elle sera la bienvenue si vous la touchez. Et quand vous la toucherez.
Voilà, c'est ça le problème. Quand ?
Merci beaucoup Aurélie de votre témoignage et on le voit bien et d'ailleurs au-delà de votre témoignage à vous Aurélie, hein, c'est aussi la question de l'efficacité réelle de ces aides, c'est-à-dire qu'il y a les annonces mais pour l'instant je crois que la plupart des guichets, y compris des aides qui avaient été annoncées déjà il y a 2 mois, ne sont toujours pas ouverts. En effet l'argent sonnant et trébuchant, il n'est pas encore tout à fait dans votre portefeuille. Il est 7h39 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Le Racing Club de Lens en finale de la Coupe de France ce soir contre Nice. Bonjour Jean-Christophe Demarais. Vous êtes le président du groupe des supporters du RC Lens. 50 000 Lensois qui sont donc attendus ce soir au Stade de France. Vous y serez évidemment. Comment vous vous sentez là ? Allô ? Je crois que vous n'êtes pas avec nous, Jean-Christophe Demarais. Est-ce que vous êtes là ? Ah, c'est bien dommage. J'aurais vraiment aimé vous donner la parole parce que je sais que vous partez à 13h tout à l'heure en bus avec un certain nombre de supporters, évidemment, du Pas-de-Calais qui vont rejoindre Saint-Denis. C'est un match inouï.
Qui rejoignent 50 000 Niçois. Ils se retrouvent au milieu à Paris pour cette finale de Coupe de France qui fait rêver, j'imagine, les Lensois après une saison exceptionnelle. Inattendu, disons-le, ils terminent deuxième de Ligue 1 et ils sont en lice, en place pour gagner une Coupe de France. J'imagine l'ébullition lensoise ce matin.
Alors j'imagine carrément l'ébullition et une telle ébullition que malheureusement du coup
on a perdu le réseau.
On a perdu le réseau. Bon bah écoutez, en tout cas on voulait vraiment souligner ce moment extrêmement fort. Alors Jean-Christophe Demarais, en tout cas nous on ne vous entend pas, mais si vous nous entendez, on vous souhaite évidemment une très 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 belle journée. Elle va être très forte. Effectivement le départ d'un certain nombre de supporters. Ils sont 50 000 à être attendus ce soir dans le Stade de France. Et d'ailleurs, Lens-Nice, c'est à 21h, finale de la Coupe de France. À suivre en intégralité, bien sûr, sur RMC. Il est 7h45. Et le débat RMC, ce sera dans un instant. Débat RMC avec Charles Consigny, la voix de droite, Cécile Duflo, la voix de gauche. Ils rentrent tous les deux dans un instant dans ce studio. On va revenir évidemment sur ces aides. Sébastien Lecornu qui dit « On n'a pas fini de subir ». J'avoue que quand il dit ça comme ça, c'est pas forcément très encourageant. On a l'impression qu'on ne voit pas le bout du chemin. Est-ce que les aides qui ont été annoncées hier sont à la hauteur ? Comment faire pour aider effectivement face à la crise du carburant ? Cécile Duflo, Charles Consigny, c'est dans un instant le débat du vendredi sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Un petit
petit peu avant la Coupe du Monde.
C'est Shakira, sa chanson officielle qui a été publiée il y a quelques jours. RMC Radio officielle, vous le savez, de cette Coupe du Monde. Alors, ça y est, c'est la chanson de Shakira, c'est la chanson de la FIFA. On se disait, c'est parti pour un mois. Mais cette nuit, la star colombienne challengée par les plus jeunes, c'est Lisa de Blackpink, le groupe de K-pop que vous entendez, avec un autre titre, une autre chanson officielle, elle aussi, de la FIFA, une autre sélection et un titre tout aussi rythmé, avec aussi Anita que vous entendez. C'est une immense star au Brésil, écoutez. Et avec aussi le Nigérian Rema. Fusion, en fait, K-pop, Afrobeat, musique latina. On a trois stars de trois continents qui seront réunis, paraît-il, Lisa, Anita et Rema, pour la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde. Ça approche, c'est sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le débat.
Et dans un instant, voix de droite, voix de gauche, le débat du vendredi, Cécile Duflot, Charles Consigny. Mais d'abord, on a des auditeurs qui ont des questions pour Marine Le Pen. Vous le savez, Marine Le Pen, elle est mon invitée pour un face-à-face exceptionnel tout à l'heure. On sera ensemble jusqu'à 9h. Mes questions, mais aussi les vôtres. Olivier, bonjour.
RMC. Oui, bonjour Apolline.
Olivier,
bonjour,
vous êtes transporteur dans le Pas-de-Calais. Vous aviez une question, vous, pour Marine Le Pen?
Oui, alors c'est une question, je me demande pourquoi les pouvoirs publics n'ont-ils pas anticipé depuis des décennies notre dépendance au pétrole, sachant les crises énergétiques que cela engendre. Les chocs pétroliers ne sont pas d'aujourd'hui, ne sont pas nouveaux, ça a commencé dès les années 70, hein, je vais pas refaire l'histoire, et aujourd'hui...
Ce que vous voulez dire, c'est qu'on n'a pas suffisamment anticipé?
Ah, totalement. Ça a commencé en 70 avec l'embargo de l'OPEP, ensuite la révolution iranienne en 79, la guerre Iran-Irak, etc., etc. Donc ça fait 30 ans qu'on aurait dû anticiper. On a des technocrates, qu'est-ce qu'ils font dans les ministères? Que font-ils depuis 30 ans? Là, on se réveille. C'est pas quand le bateau coule qu'on cherche son gilet de sauvetage. Alors on balance.
On aurait pu l'anticiper, vous voulez dire, le gilet de sauvetage, effectivement. Merci beaucoup, oui. Olivier. Je lui pose la question justement de notre dépendance, au pétrole. Pascal nous interroge également, il est agent de nettoyage, je note sa question. Je crois que Pascal, vous êtes agent de nettoyage à Bry-sur-Marne, c'est ça? Vous avez une question sur le handicap?
Oui, parce que je rencontre beaucoup de difficultés quand je vais faire mes courses sur les parkings de centres commerciaux. Et les amendes, ça ne pleut pas parce qu'il y a beaucoup de voitures qui sont... des grosses voitures, des belles voitures qui se mettent sur les places handicap et nous on ne peut pas se garer parce que des fois on a des difficultés de marcher et du coup on va dans les places très éloignées quoi.
Qu'est-ce qu'elle fait pour les handicapés? Je lui pose la question aussi tout à l'heure. Il est 7h50, ils sont là, tous les deux, Charles Consigny et Cécile Duflot. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Vous l'avez écouté, Sébastien Lecornu, hier, qui dit on n'a pas fini de subir, mais qui promet des mesures, des aides, et notamment le doublement des indemnités kilométriques, 710 millions de coûts supplémentaires pour l'État de ces annonces hier. Mais on le sent bien, ça n'ira pas forcément plus loin. Est-ce que c'était mesurette ou est-ce que c'est une vraie bouffée d'air pour les plus précaires? Cécile?
C'est un peu sous la contrainte, mais ça résout pas du tout durablement le problème. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a un problème de dépendance aux énergies fossiles qui est important et que si on n'investit pas de manière très significative, d'ailleurs le montant qui avait été indiqué par RTE, c'est 94 milliards. Pour électrifier la France d'ici 2040, on va pas s'en sortir. Donc, choisir des mesures de court terme, ça aide quelques personnes, mais ça n'embarque pas la France dans l'avenir. Et si on veut embarquer dans la France dans l'avenir, alors la question de comment on finance cette transition se pose. Et là, il y a évidemment aucune réponse de la part du Premier ministre.
Charles?
Je pense que ce sont des rustines qui sont avant tout psychologiques, parce que avant que chacun aille demander son chèque, remplisse son formulaire, démontre qu'il fait bien le bon nombre de kilomètres, qu'il lui donne le droit à ça, qu'il a bien les ressources qui correspondent, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne demanderont pas tout simplement les aides en question.
Il l'espère, le Premier ministre, vous pensez, secrètement?
Je pense qu'ils s'en foutent, si vous voulez. Ils ont augmenté la dette de plus de 1500 milliards, donc que les gens la creusent encore de quelques millions ou pas, je pense que c'est pas son sujet. Et je crois d'ailleurs que il fait beaucoup de politique. J'ai écouté son intervention hier. Un coup, il a cité Pompidou, même plusieurs fois.
Arrêtons d'emmerder les Français.
À un autre moment, c'était le général de Gaulle. À un moment, c'était même la droite sociale de Séguin. Donc, il convoque comme ça quelques personnages, à mon sens, à des fins politique personnelle. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait baisser les taxes sur l'essence, tout simplement, comme l'ont fait une dizaine de pays européens. On ne peut pas le faire, pourquoi ? Parce qu'on ne réforme pas notre pays et qu'on dépense trop d'argent public. Et ça fait 10 ans qu'ils sont là, et en 10 ans, ils n'ont pas réformé ça.
Cécile Duflot ?
Il peut y avoir des pistes de réforme de l'État, ça c'est certain. En revanche, ce qui est sûr, c'est que là, on fait face à différents enjeux qui pèsent sur le budget des Français. L'essence, on l'a dit, le transport de façon générale, mais aussi le logement. C'est-à-dire que la pression et l'attention, et pourquoi effectivement le Premier ministre est obligé de faire des rustines, je suis d'accord avec le mot de Charles, c'est qu'il y a tout un tas de Français qui sont de plus en plus contraints sur leur budget.
Et est-ce que baisser les taxes aurait pu être une réponse ?
Là aussi, c'est une solution de court terme, parce qu'un jour ou l'autre, de toute façon, le prix de l'énergie va être rattrapé par la baisse des taxes, ça ne change rien. Le vrai chantier, c'est celui de la sobriété, parce que moins on dépense, moins on est dépendant. Donc il faut engager la France dans cette transformation-là, qui, en plus, va être utile pour les entreprises françaises, parce que ça nous permettra d'investir sur notre territoire, de pouvoir justement investir durablement. Et là, ce qui manque, et d'ailleurs, je pense que ce sera le plus gros échec, regardez avec l'histoire des 10 ans d'Emmanuel Macron, c'est qu'il n'a pas du tout anticipé un monde dans lequel les ressources vont être plus rares, dans lequel les conséquences du changement climatique sur la vie quotidienne des Français, sur ce qu'on peut produire dans nos champs, sur l'état de nos maisons, il n'y a pas du tout travaillé. Donc en fait, ça a été vraiment que du court terme, avec une sorte de pensée magique, notamment sur le ruissellement, ce qui a eu comme autre effet, l'aggravation des inégalités. Donc cette situation-là, sur un terreau où les inégalités s'aggravent, c'est insupportable et c'est compréhensible.
L'électrification, c'est la solution, Charles ?
Oui, ça fait partie de la solution. Moi, je conduis bien sûr une voiture thermique et j'en suis très content.
Ça fait partie désormais.
Il y a un plaisir à conduire une voiture électrique, mais on y viendra peut-être quand même.
Faut gérer ces petits problèmes de libido, voilà, Charles, quand même.
Qu'est-ce qu'on répondait à ça, là, on est sur une logique carrément. Mais oui, en fait, c'est de la masculinité.
Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a pas de plaisir.
Qu'est-ce qu'on aurait dit si j'avais dit ça à une femme?
Avec moi, vous pouvez le dire. Pas de problème, Charles.
Je vois d'ici.
Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'aime pas conduire une voiture électrique.
Il n'y a pas de plaisir à conduire une voiture électrique.
Et quel est le plaisir à conduire une voiture thermique?
On entend un bruit de moteur, il se passe quelque chose, c'est agréable. Voilà, c'est comme ça. Je veux dire, je ne connais pas de voiture électrique agréable à conduire. C'est tout.
Donc c'est ça qui empêche. Mais c'est intéressant parce que c'est psychologique. Du coup, s'il y a beaucoup d'hommes qui pensent comme vous, y compris des hommes qui dirigent, y compris des hommes au gouvernement, je comprends pourquoi on englue la France dans un truc totalement.
C'est une histoire d'homme, la voiture électrique
Imaginez si j'avais dit à une femme, arrêtez avec votre libido. Enfin, je serais viré dans l'instant de cette station.
Non, je ne crois pas.
C'est quand même marrant le deux poids deux mesures.
Parce que je pense que le rapport à la voiture.
Je suis comme le président.
Le rapport à la voiture, Charles, le rapport à la voiture, il est très intéressant parce que justement, et je l'ai vu, j'ai fait une chronique ici sur les voitures de fonction. Je crois que c'est la chronique qui a donné lieu au plus d'émotions des uns et des autres. Pourquoi ? Parce qu'on a aussi, et vous êtes prisonnier à ce titre-là, on a chargé la voiture de tout un tas d'autres choses que juste sa fonction, transporter des gens. Ce qui fait qu'il y a des gens aujourd'hui qui roulent dans Paris.
C'est comme toutes
avec
les choses. Il y a fauteuil, il n'a d'autre fonction que de vous y asseoir. Et pourtant, il y a des fauteuils qui coûtent 100 000 euros. Si vous voulez, ça n'a pas de sens que vous dites ça, c'est valable pour tout.
Pourquoi ? Parce que la conséquence des voitures, c'est pas du tout la même que la conséquence des fauteuils. Oui. Et notamment leur consommation. Donc on aboutit à des situations folles où devant nous, là, à Paris, roulent 1200 tonnes de ferraille qui transportent une personne alors qu'elles sont conçues pour transporter 5 personnes.
Mais plus personne n'a de voiture à Paris.
D'abord, ça n'est pas vrai. Et ensuite, ceux qui roulent avec des voitures et qui en sont aujourd'hui pas spécialement contents, mais qui n'ont pas le choix pour aller travailler, qui n'ont pas le choix que de remplir leur réservoir, ils sont coincés. Et ils sont coincés
justement parce qu'on ne pense pas à la transition. Vous nous accorderez quand même que ceux qui ont investi dans une voiture électrique, là, depuis 3 mois, ils sont quand même particulièrement contents.
Ah, mais sans doute. Mais en tout cas,
je ne sais pas s'ils prennent plaisir, mais en tout cas, je pense qu'ils sont très contents.
Les macronistes ont complètement loupé le coche de l'écologie alors qu'ils avaient fait Make Our Planet Great Again, etc. Ça, d'accord. Voilà. En revanche, je suis très amusé de voir que tout de suite la tristesse et la morale font irruption sur notre plateau dès qu'il est question de goût personnel. C'est-à-dire qu'il y a quand même à gauche une espèce de négationnisme de l'individu que je trouve très intéressante intellectuellement. On ne laisse pas les gens être eux-mêmes. On veut les amener à tout prix dans un collectif morne.
Alors, nous étions partis sur un débat sur les aides de Sébastien Lecornu. Nous savons basculer sur la question de l'individu ou du collectif. Cela dit, ça reste passionnant.
Et oui, parce que c'est ça le sujet, en fait. Le sujet,
sujet, c'est comment on réussit à embarquer tout notre pays face à des enjeux qui sont des enjeux qui sinon vont faire que plus personne n'aura de plaisir nulle part. C'est ça le problème. Mais non. Et justement, moi, ce qui me semble intéressant, c'est qu'on n'est pas obligé de le faire par la contrainte. Et je trouve ça justement intéressant de comprendre pourquoi on reste englué dans un modèle qui nous étrangle.
On reprend la vendredi prochain.
Bientôt, on chronométrera les gens dans leur douche.
Et j'inviterai.
Il est 7h57. Je n'arriverai pas à les faire taire, mais promis, vendredi prochain, on revient à bientôt. On chronométrera les gens dans leur douche. 7h57 sur RMC. Dans un instant, ce sera la météo et le journal. Et Emmanuel Le Chypre qui nous rejoint. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. RMC, Apolline Matin.
C'est l'heure du journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. On est au matin de la finale de la Coupe de France de football entre Lens et Nice. Et la soirée, vous allez voir, a été émaillée de violents affrontements à Paris impliquant des supporters niçois. 65 interpellations, 6 blessés dont un grave. Voilà le bilan ce matin et nous serons sur place dès le début du journal. Nous serons aussi à Colmar, là où vivait la mère de famille arrêtée au Portugal pour avoir abandonné ses deux enfants de 4 et 5 ans dans une forêt. Et on va vous reparler, vous donner les tout derniers chiffres du Livret A, plus que jamais, qui n'attire plus du tout les Français. Vous allez voir qu'il a vécu son pire mois d'avril depuis 2009.
La finale de la Coupe de France a déjà commencé, malheureusement, de la mauvaise manière.
Oui, on savait que ce match entre Nice et Lens, ce soir au Stade de France, était classé à risque. Les autorités redoutant des affrontements impliquant les supporters. Eh bien, c'est manifestement ce qui s'est passé tard hier soir dans le quartier du Canal Saint-Martin, au nord-est de Paris, avec des affrontements très violents. Pierre Bazin, vous êtes en direct ce matin sur place pour RMC. Là où ça s'est passé, vous constatez de vous-même les dégâts.
Oui, ce matin, le long du quartier, le long du canal Saint-Martin, la chaussée est couverte de verre brisé. Il y a des baskets abandonnées, des taches de sang sur les trottoirs qui témoignent de la violence des affrontements. Selon la préfecture de police de Paris, il est environ 23h30 hier lorsqu'une centaine de supporters niçois déambulent dans les rues cherchant à s'affronter avec des passants. Des hommes habillés de noir, parfois cagoulés au cœur d'un déchaînement de violence. Armand, un riverain, était hier aux premières loges de ces affrontements. Au total, il y a eu hier 65 interpellations, Quentin. D'après un premier bilan, 6 personnes ont été blessées, dont une grièvement par des coups de couteau ou de tessons de bouteille. Selon une source sécuritaire à RMC, les autorités s'attendaient plutôt à des affrontements aujourd'hui entre supporters en marge de la finale de la Coupe de France, vous l'avez dit. Match classé à haut risque, mais visiblement, les hostilités semblent avoir commencé dès hier.
Voilà, Pierre Bazin qui a donc interrogé et qui s'est rendu ce matin sur place pour tenter de comprendre ce qui s'est passé tard hier soir à Paris, donc dans ce quartier du Canal Saint-Martin, avec ces affrontements entre supporters. On attend plus de 50 000 Lensois ce soir pour cette finale de Coupe de France que vous allez vivre à 21h sur RMC. Les enjeux sportifs, Nice veut sauver sa saison, Lens veut la parfaire en remportant pour la première fois de son histoire cette compétition. Les autorités portugaises et françaises cherchent toujours à comprendre à ce matin le geste fou d'une mère de famille de 41 ans qui a été arrêtée hier au Portugal avec son nouveau compagnon après avoir donc abandonné ses deux enfants de 4 et 5 ans en prétextant un jeu, en leur bandant les yeux et en les laissant seuls dans une forêt. C'est un boulanger portugais qui les a retrouvés, il passait par là. Une information judiciaire est ouverte évidemment au Portugal et une autre en France, à Colmar, là où vivait la famille et où la disparition avait été signalée il y a 10 jours. Vous y êtes en direct ce matin pour RMC, Caroline Renaud. On a de premières infos sur le profil de cette mère de famille.
Oui, c'est elle qui avait la garde des deux enfants. Elle vivait avec eux dans un quartier du centre-ville de Colmar depuis son divorce il y a un peu plus d'un an. Selon nos informations, cette mère de 41 ans travaille dans le domaine médical. Elle était activement recherchée depuis 10 jours après avoir disparu sans donner d'explication avec ses deux garçons ainsi que son nouveau compagnon rencontré il y a quelques semaines et déjà connu des services de police français pour des troubles psychiatriques. Cette mère de famille est toujours aux mains des autorités portugaises comme son compagnon. Tous deux seront présentés devant un juge cet après-midi selon la presse locale. Le père des deux enfants, lui, serait en route pour le Portugal après avoir déposé plainte pour soustraction de mineurs. Ses deux fils sont sains et saufs. Ils ont pour l'instant été remis à la protection de l'enfance portugaise.
Voilà pour les dernières infos ce matin avec Caroline Redon en direct de Colmar pour RMC. On est au lendemain, et vous le savez bien, des nouvelles annonces du gouvernement pour faire face aux conséquences de la guerre au Moyen-Orient. 710 millions d'euros, ça a été annoncé hier. Des aides carburant reconduites pendant 3 mois pour pêcheurs, agriculteurs, routiers, BTP. Le mot passé aussi aux patrons qui peuvent aller jusqu'à doubler la prime carburant pour ceux qui ont mis en place. Sonia Gobry du service politique à RMC en direct ce matin avec nous. On a bien compris que la marge de manœuvre était très limitée pour le gouvernement dans le contexte budgétaire. Et alors, on constate, hein, on est passé en quelques années de la politique du quoi qu'il en coûte à la politique du cas par cas.
Oui, et c'est assumé par Sébastien Lecornu, parce qu'on n'a pas fini de subir, pour reprendre ses mots, il le répète, il n'y a pas d'argent magique. Une baisse des taxes sur les carburants, c'est donc non. Ce serait même, dit-il, une connerie, un fardeau à porter en matière de déficit qu'il veut tenir autour des 5%. Alors, chaque aide sera compensée par des économies, les arbitrages sont en cours. Sébastien Lecornu ne veut pas de coup de rabot à l'aveugle, parce qu'il se projette politiquement dans la préparation du prochain budget. Il le sait, à quelques mois de la présidentielle, il sera ciblé de toutes parts. Mais le chef du gouvernement compte respecter la règle qu'il s'est fixée. Pas de cadeau bizarre au mois de mai qui se transforme en augmentation d'impôts à l'automne.
Sonia Gobry pour RMC. On verra ce qu'en dit Marine Le Pen du Rassemblement National, invitée d'RMC ce matin à 8h25 face à Pauline. L'autre fait politique du jour à suivre, c'est Gabriel Attal qui devrait déclarer sa candidature à la présidentielle depuis l'Aveyron. Aujourd'hui, au milieu des vaches, façon Jacques Chirac en quelque sorte, pour se détacher de l'image d'Emmanuel Macron. Alors, on parlait, souvenez-vous, hier matin, à cette heure-là, des 8 Français sur 10 qui se serrent la ceinture. Sondage ELAB qui n'arrive pas à boucler les fins de mois. Il y a une nouvelle info ce matin, et c'est évidemment en lien. Le livret A n'attire plus les Français. On fait le constat depuis des mois, le taux a été abaissé à 1,5 en février. Mais c'était encore plus vrai le mois dernier. Pire mois d'avril depuis 2009, en pleine crise économique à l'époque. C'est ce que nous dit ce matin la Caisse des dépôts. Écoutez ce qu'en dit Philippe Crevel, le président du Cercle de l'épargne, à qui on a passé un coup de fil tôt ce matin.
Pour les Français les plus modestes, il y a évidemment un problème de pouvoir d'achat. Ils tirent de l'argent sur leur livret A pour faire face à leurs dépenses courantes. Et puis, pour les Français qui ont de l'argent, se détournent un peu du livret A parce qu'il rapporte moins ou parce qu'il est au plafond. En revanche, l'assurance vie, depuis le mois de janvier, bat des records. Donc on voit que ceux qui ont de l'argent préfèrent l'assurance vie parce que c'est mieux rémunéré par rapport au livret A, dont le taux a été divisé par 2 en un an entre 2025 et 2026.
Vous l'avez entendu un peu plus tôt ce matin sur RMC, le ministre de l'Éducation, Édouard Geffray, annonce qu'il saisit le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris pour lui signaler les propos en début d'année d'un des avocats de la Défense au procès en appel de l'assassinat de l'enseignant Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine. Cet avocat disait que Samuel Paty, je cite, un procédé à la discrimination des élèves musulmans, des propos que le ministre qualifie de choquants. Donc ce matin sur RMC, il y a cette nouvelle étude sur les enfants et les écrans publiée ce matin par l'Observatoire des tendances addictives. Elle aurait tous nous alarmer parce que les écrans ont des conséquences qu'on ne soupçonne pas, provoquant jusqu'à un vieillissement accéléré de la colonne vertébrale, un ralentissement dans l'acquisition du langage chez les plus jeunes, sans parler de tout ce qui est lié à la concentration. Écoutez avec Marion Gauthier et Clara Gabillet pour RMC.
Montrer une photo à son ami et au passage...
Automatiquement, je vais d'abord aller sur Snap. C'est un peu toxique.
Violette et Charlotte vont d'une application, d'un réseau social à l'autre.
Après, quand la vidéo est trop longue, des fois ça me saoule, donc je passe.
Trop long, c'est quoi ?
Plus de 30 secondes. Et j'ai le réflexe de, quand je regarde un film toute seule, d'aller dans mes Reels Insta, parce que ça m'ennuie, il n'y a pas assez d'action dedans.
Chaque pause utilisée pour regarder un écran.
Ce matin, je regardais TikTok, j'ai peut-être passé 2 heures dessus, et je me souviens de absolument rien.
Admet Mathieu, 15 ans.
Bah, ça me donne du dopamine très facile, et j'ai des profs qui me disent que je suis TDAH, alors que je ne suis pas TDAH. C'est juste que j'ai moins de patience, j'ai besoin de stimulation constante, et ça me donne plus de difficultés en cours, en tout, en regardant des films, en lire des livres, tout ça.
Cette capacité à focaliser son attention entraîne ce que le docteur Alexandre Caron appelle une hypervigilance.
Que ça soit sur les troubles anxieux, sur les apprentissages, sur le sommeil, finalement l'hypervigilance nous amène parfois à même nous réveiller la nuit dans l'expectative d'une notification.
Le cerveau sature et ce n'est pas qu'une question de temps d'écran, insiste-t-il. Il faut prendre en compte la manière dont ils sont utilisés pour trouver des solutions efficaces.
Et puis il n'y a pas que la finale de la Coupe de France en football, il y a aussi les finales de Coupe d'Europe de rugby tout ce week-end à Bilbao en Espagne. En attendant Bordeaux demain, dans la grande Coupe d'Europe, il y aura la petite. Ce soir, Montpellier qui va tenter de la remporter pour la 3e fois. Ce sera contre les Irlandais de l'Ulster. On vivra ça évidemment sur RMC.
C'était le journal de Quentin Vinet, 8h09. On parle économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Avec Emmanuel Le Chip. Bonjour Emmanuel. Donc beaucoup de mesures annoncées hier pour soulager la facture énergétique des Français. Mais concrètement, à la fin du mois, ça représente combien pour chacun ?
Alors, si on s'intéresse à monsieur et madame tout le monde, donc pas aux entreprises pêcheurs, transporteurs routiers, BTP, etc., on a 27 millions de salariés qui travaillent, puisque tous les Français qui ne travaillent pas, de toute façon, n'auront droit à rien, à part à aller faire le plein chez Total. Donc, sur les petits salaires, c'est très simple, hein, on avait 50 euros d'indemnité, on passe à 100 euros, il faut gagner à peu près pas plus de 1500 euros par mois. La mesure la plus intéressante, parce que c'est la seule potentiellement pour laquelle on peut parler du véritable changement d'échelle qu'avait évoqué le Premier ministre, eh bien, c'est l'augmentation du plafond d'exonération fiscale et sociale de la prime carburant employeur. Ce plafond passe de 300 à 600 euros. De quoi s'agit-il ? En fait, c'est une prime facultative qui n'était touchée jusqu'à présent que par 1 million de salariés. Ça représentait entre 20 et 50 euros par mois. C'est à la discrétion de l'entreprise. Les patrons qui la versent déjà et qu'on a interrogé rapidement pour dire, est-ce que vous allez suivre ce que
est-ce
les...
Est-ce que vous allez effectivement doubler la prime ?
Il y en a qui nous disent, bon, grosso modo, ils nous disent, allez, on peut remettre 30 euros au pot par mois. Mais le plus intéressant, c'est que les conditions d'attribution de cette aide qui étaient extrêmement contraignantes, là, tout saute. Donc concrètement, aujourd'hui, presque toutes les entreprises peuvent, si elles le souhaitent, grâce à l'assouplissement du dispositif, accorder cette aide. Et il faut rappeler que c'est colossal, puisque vous avez 3 Français sur 4 qui prennent leur voiture pour aller travailler. Donc la question, c'est est-ce que les entreprises ont joué le jeu ? Ce qui inquiète, c'est que leur situation financière se dégrade et qu'en fait, c'est un dispositif qu'elles n'aiment pas beaucoup. Parce que ça fait du cas par cas, ça fait des tensions sociales dans l'entreprise. Pourquoi lui, il y a droit ? Pourquoi moi, j'ai pas droit ? Donc oui, il y a plus d'entreprises qui vont sans doute l'accorder, mais tous les Français salariés n'y auront pas droit.
C'est vraiment une séparation presque entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas, d'ailleurs.
Ah bah ceux qui ne travaillent pas n'ont droit à rien.
Exactement. Les chiffres du jour, comme chaque jour sur RMC, Emmanuel.
Alors, le gazole, bah, on est à 2,16 € le litre. C'est 4 centimes de plus qu'à la veille du week-end dernier. Le sans-plomb 95, toujours un record absolu. 2 centimes de plus, même qu'en milieu de semaine, chaque jour, presque un centime de hausse. Le pétrole s'est retombé un peu. 104 $ le baril. On avait commencé la semaine à 110. Et sur le gaz, petite détente aussi, 40 euros le mégawatt-heure après une pointe à 51 euros en début de semaine.
Merci Emmanuel. 8h11.
Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Et vous le savez, mon invité à 8h30, ce sera Marine Le Pen. Et vous êtes nombreux à nous envoyer vos messages, Mathieu.
Oui, elle répondra à vos questions dans une grosse dizaine de minutes sur RMC. Alain nous écrit « Bonjour Madame Le Pen, en cas de victoire du RN à la prochaine présidentielle, ne craignez-vous pas une bordélisation du pays par l'extrême gauche et quelles seraient vos mesures dans ce cas ?» Voilà ce que demande Alain. Alex a deux questions. La question que je lui poserai vraiment en premier, c'est que je suis salarié à domicile dans le domaine de la livraison. Comment veulent-ils faire au RN pour rapprocher le brut du net ? Et puis, il a ajoute, est-ce que le Rassemblement National autoriserait la France à extraire du pétrole à nouveau ? Et il parle de la fragmentation hydraulique des gaz de schiste, pardon, Alex, qui est sur le terrain des énergies et du carburant. Thierry demande, Madame Le Pen, comment vous réagissez à la levée de bouclier des partis politiques qui deviennent tous copains quand il s'agit de voter contre le RN ? Et ne pensez-vous pas que le nom Le Pen reste malheureusement toujours préjudiciable ? Voilà ce qu'écrit Thierry sur le WhatsApp RMC au 0612 424 424. Vous continuez à interroger Marine Le Pen qui sera l'invitée d'Apolline dans une dizaine de minutes sur RMC et BFM TV.
Et dans un instant, il y aura Arnaud Demange qui va venir nous faire rire. Et puis, Mathieu nous le disait à l'instant, Marine Le Pen qui sera donc mon invitée à 8h30 sur RMC et BFM TV. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Tous les jours.
Il est là, Arnaud Demange, il est 8h15.
Hey, bonjour Apolline, bonjour les amis, bonjour Élise, bonjour Mathieu, bonjour Salut, Géraldine.
Bonjour.
Alors, Géraldine, avant de parler d'actu, un petit point météo avec vous, puisque je crois qu'on prévoit des pics de température à 35 degrés, c'est
ben
ça
oui, c'est
aujourd'hui.
Ça, c'est ça.
Alors attention à vos seniors, arrosez-les régulièrement. Et vraiment là, en plus je plaide coupable, parce que souvenez-vous, lundi, j'avais reproché à notre Madame Météo, Géraldine
oui,
de Maury, d'avoir
bien.
Fait pleuvoir tout le week-end sur toute la France. Et je lui avais demandé le retour du beau temps. Résultat, on est en alerte canicule. Géraldine, faut pas l'emmerder, quoi. Il va voir le comique, je vais te foutre 40 degrés à Dunkerque, les poissons de la Manche, ça va devenir de la bouillabaisse. De la mer du Nord et tout. Quand ses voisins font du bruit à Géraldine, elle envoie un nuage de grêle sur leur pièce de tomate. Géraldine, c'est Zeus, Géraldine. Les candidats à la présidentielle, ils vont venir voir Apolline pour le face-à-face et après, ils vont consulter Géraldine directement. Gabriel Attal, par exemple, il va venir vous voir. Madame de Morien, pourriez faire tomber de la pluie sur la tête de François Hollande. Bon, remarque, là, c'est facile. Ah, enfin, je veux dire, ça ne demande pas une immense compétence, mais c'est un exemple. C'est pas le bon exemple, mais c'est un exemple. Sinon, dans l'actu,
Il y a un juge français qui va enquêter sur le prince d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, à propos de la mort du journaliste Jamal Khashoggi.
Voilà.
Il est courageux, ce juge. Bah,
Non seulement on n'a plus de pétrole iranien, on n'a plus de pétrole russe. Si maintenant on se fâche avec l'Arabie Saoudite, on va bien galérer à faire le plein. Je sais qu'en ce moment on a lancé un puits de pétrole en Alsace, mais ça risque de pas suffire, voyez. Ça fera 163 euros le litre. Oh, c'est du pétrole alsacien, c'est très bien. Alors, MBS. MBS, c'est Mohamed Ben Salman. Hein. Vous savez, son vrai nom d'ailleurs, c'est Mohamed Ben Salman Ben Abdelaziz Ben Abderrahman Ben Faisal Ben Turki Ben Abdallah Ben Mohamed Al Saoud. Vraiment son vrai nom. Donc son vrai surnom, en théorie, c'est MBS BABA BFT BABMAS. Ce qui se prononce MZBA. C'est lui qui a inspiré les Hanson. Donc on se souvient de l'affaire Jamal Khashoggi, assassiné et démembré dans le consulat saoudien à Istanbul. En fait, il avait fait l'erreur bête pour un journaliste saoudien. Il avait choisi de devenir journaliste saoudien.
Ah oui, voilà,
ça pardonne pas. Comme dirait Jacques Villeray,
à la boulette. J'ai fait la boulette.
Donc il a voulu mener une enquête, genre il s'est cru dans une démocratie et tout. Et résultat, les agents saoudiens lui sont tombés dessus. Et alors là, l'accident con, en plein démembrement, il est mort. Oh là là, une histoire qui avait fait beaucoup réagir à l'époque, notamment Jean-Luc Mélenchon qui avait dit « Mais on peut faire ça aux journalistes ? On peut ? On a le droit ?»
Alors l'AS Monaco a signé donc le latéral portugais Nazinho.
Nazinho, eh oui, Nazinho.
C'est vrai que ça se prononce
avec l'accent chantant, Nazinho. C'est pas un pseudo comme Ronaldinho, hein, c'est son vrai nom.
Ouais.
Heureusement, il n'a pas choisi. C'est son vrai nom. L'AS Monaco, je ne sais pas ce qu'ils ont ces dernières années. Il y a 2 ans, ils avaient signé Adolf Hütter comme entraîneur. Après, ils avaient engagé Willem Goebbels. Et cette année, c'est Nazinho.
Oui.
Ça va devenir la SS Monaco. Dans 6 mois, on a une équipe au top. Et allez, le coup d'envoi qui est donné, là, avec Nazinho, qui s'appuie sur Mussolina, qui dévie vers Auschwitz en première intention. En deuxième, Colabi. Troisième, Reich. Et Maxence Lacroix, là, avec son compère Pierre Gamet. Charnière solide, hein, Lacroix Gamet. Et but ! But de Bolorino !
Oh !
Vicente Bolorino qui ouvre le score sur cette passe de Vladimir Senius. Bref, c'est l'occasion de rejouer un jeu auquel on a déjà joué l'année dernière. Ce footballeur existe-t-il ou pas ? Je vous donne des noms de 2 footballeurs. Vous me dites lequel est le vrai. C'est que des nouveaux noms par rapport à l'an dernier. Attention, top ! Lequel est le vrai entre Igor Lolo et Boris Cucu ?
Boris Cucu.
Non, c'est Lolo. Igor Lolo, c'est le vrai. David Lambada ou Jonathan Bamba ?
Bamba.
Romano Mussolini ou Heinrich Hitler ?
Oh non !
Eh oui, il y en a un des deux qui est vrai. Non, c'est Mussolini qui est vrai. Et qui est descendant direct d'eux, d'ailleurs. Iago Pikachu ou Thiago Bulbizarre ?
Bulbizarre.
Non, Iago Pikachu.
Mais non, on est nul.
Kevin Lasagna, Brandon Carbonara.
Lasagna.
Nicolas Sachi, TJ Savachier. Attention, c'est là où
le premier.
Ah, c'est Nicolas Sachi, ouais. Anthony Sminou ou Nikos Abrikos.
Abrikos.
Non, c'est Anthony Sminou. Et enfin, last but not least, Oussama Bin Laden ou non. Norman Lelandais. Non, c'est Oussama Bin Laden. Un vrai joueur. Allez, bon week-end.
Incroyable.
Merci Arnaud. On vous retrouve tous les jours en podcast et en tournée partout en France. Arnaud sera à Dijon, à Genève. Enfin, Genève, c'est pas en France.
C'est pas en France,
c'est international. C'est worldwide. À Dijon, à Genève, à Gaillac, à Épinal, au Garric, à Frémin-Merlebach.
Oui, c'est la Lorraine.
Tout à fait. À Clermont. Je voyais ça dans l'Est, effectivement. Clermont-Ferrand, Morières-les-Avignon, un spectacle RMC. Et maintenant, sans transition, je vais interviewer Marine Le Pen. Le face-à-face, c'est dans un instant, dès 8h25, et on sera ensemble jusqu'à 9h. Marine Le Pen qui répond donc à mes questions dans le face-à-face. Ça se passe sur RMC et BFM TV. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Et le rappel des titres, Victor Pourchet.
Des affrontements à Paris cette nuit au bord du canal Saint-Martin. Ils ont impliqué des supporters niçois à quelques heures de la finale de la Coupe de France de foot ce soir contre Lens. Il y a 6 blessés, dont un grave. 65 personnes ont été placées en garde à vue selon la police. Le gel des allègements de charges confirmé ce matin par le gouvernement dans la foulée de la hausse du SMIC. C'était la crainte des entreprises qui estiment que le poids de cette hausse portera désormais sur leurs épaules. On fait le point sur les nouvelles aides carburant annoncées hier par le gouvernement. Le coup de pouce pour les gros rouleurs passe de 50 à 100 euros. Il est prolongé jusqu'à fin août, comme celui pour les agriculteurs, les transporteurs, les pêcheurs ou encore pour le secteur du BTP. Une liste de secteurs concernés qui s'allonge. Les aides à domicile ou encore certains fonctionnaires comme les profs remplaçants l'intègrent. L'animatrice Flavie Flamand dénonce une diffamation insupportable. Elle dit ce matin n'avoir jamais eu de relation sexuelle consenti avec Patrick Bruel. C'est la version défendue par les avocats du chanteur depuis qu'elle l'accuse de viol quand elle avait 16 ans. Une mère de famille française, partie de Colmar, a été arrêtée au Portugal hier. Elle est suspectée d'avoir bandé les yeux puis abandonné deux de ses enfants sur le bord de la route dans le pays. Âgés de 4 et 5 ans, ils avaient été recueillis par un automobiliste qui avait donné l'alerte mardi. Le nouveau compagnon de cette femme a lui aussi été interpellé. Et puis la météo, rien que du soleil, mais surtout de la chaleur à prévoir. Pour aujourd'hui, on va vivre un épisode de forte chaleur remarquable par sa précocité, son intensité et sa durée. Cet après-midi, on atteindra déjà des pointes à 35 degrés en Aquitaine. Il fera 24 à Nice, 27 à Marseille, Brest ou encore Rouen, 29 à Paris, 31 à La Rochelle ou encore 33 à Biarritz.
C'était le rappel des titres de Victor Pourchet. Dans un instant, mon invité dans le face-à-face, c'est Marine Le Pen, un face-à-face exceptionnel. On est ensemble jusqu'à 9h.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il est 8h26 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Marine Le Pen.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous y répondrez d'ailleurs jusqu'à 9h exceptionnellement. Beaucoup, beaucoup de questions à vous poser sur votre candidature d'ailleurs également, puisque vous êtes toujours, au moment où l'on se parle, candidate à l'élection présidentielle. Vous êtes présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale. Vous êtes députée du Pas-de-Calais. Mais d'abord, évidemment, les aides annoncées hier par Sébastien Lecornu. Je me souviens que le 24 mars dernier, vous aviez dit, je vous cite, « L'État se comporte comme un profiteur de crise ». Vous pointiez du doigt des recettes indues liées à la flambée du carburant. Hier, Sébastien Lecornu a dit les caisses sont vides et il a dit d'ailleurs qu'il n'y avait pas de cagnotte, ni cachée ni pas cachée, puisque deux mois plus tard, côté rentrée fiscale, c'est quasiment rien. Il estime qu'il y a 10 millions juste d'euros qui sont rentrés dans les caisses depuis le début de la crise. Est-ce que vous dites toujours que c'est un profiteur de crise ?
Non, mais nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. La réalité, c'est qu'on savait pertinemment qu'à partir du moment où le prix des carburants atteignait de tels niveaux, ça allait avoir un effet récessif, c'est-à-dire un effondrement en réalité de la consommation. Donc, les bénéfices que l'État souhaitait tirer, ce qui a été le cas dans un premier temps, eh bien, auraient été refus parce que, à un certain niveau, les Français renoncent, voilà, ils renoncent à se déplacer avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur l'activité économique.
Donc vous n'êtes pas surprise ?
Non, je ne suis pas surprise. Mais si, comme nous le souhaitions, il avait baissé la fiscalité sur les carburants, les Français auraient continué à consommer des carburants dont ils ont besoin pour vivre, pour se déplacer.
Ça veut dire que vous dites ce matin, Marine Le Pen, si effectivement il avait baissé les taxes dès le début, dès le mois de mars, en gros, on ne serait pas en crise aujourd'hui ?
Ah bon, il n'y aurait pas en tout cas cette baisse de la consommation avec toutes les conséquences, encore une fois, avec leur effet récessif sur l'économie, c'est sûr.
La guerre sera longue, dit Sébastien Lecornu. On n'a pas fini de subir. Alors, il n'y aura pas de baisse de taxes, mais il y aura des aides toujours ciblées, pour certaines doublées. Comment vous réagissez ?
Oui, enfin, écoutez, franchement, le déploiement de moyens de cette conférence de presse hier est inversement proportionnel à l'importance des annonces qui ont été faites. Il aurait pu se contenter d'un communiqué de presse plutôt que amener sept ministres pour expliquer qu'en réalité l'État va faire un effort de 200 millions par mois.
Ça veut dire quoi ? C'était de l'affichage ?
De 200 millions par mois à destination de ceux qui, s'ils ne les ont pas, vont fermer boutique. En réalité, c'est ça, parce que c'est vraiment, on essaye de donner le minimum pour que un certain nombre de secteurs ne s'effondrent pas sur eux-mêmes. Mais c'est évidemment pas la hauteur des difficultés qui sont celles aujourd'hui des Français et même de ceux qui bénéficient des aides, parce que vous voyez bien que les aides qui sont accordées ne sont pas à la hauteur de l'augmentation auxquelles ces secteurs font face. Et d'ailleurs, par exemple, dans le transport, les professionnels nous disent qu'ils sont incapables, en réalité, de répercuter la hausse du carburant sur leurs propres clients. Donc tout ça, ce sont des affaiblissements d'entreprises. Il y a déjà 70 000 défaillances d'entreprises. C'est un record absolu. Et donc, le gouvernement n'est pas à la hauteur dans ce qu'il propose pour pouvoir permettre le moindre optimisme.
Vous en parlez presque avec une sorte de... Vous dites de toute façon quoi? Vous en attendiez pas autre chose?
Ben non, j'en attendais pas autre chose, puisqu'il avait dit lui-même qu'il refusait précisément de mettre en place la baisse que nous souhaitons de la fiscalité sur le carburant, puisque nous souhaitons que la TVA baisse de 20 à 5,5. Nous souhaitons que les certificats d'économie d'énergie qui renchérissent le prix soient supprimés, et même qu'on puisse agir sur la TICPE de manière transitoire.
Dans le contexte
de la TVA, en revanche, étant, à notre sens, nécessaire de manière définitive.
Dans le contexte actuel, en l'état de nos finances, vous maintenez qu'il faut baisser les taxes?
Bien sûr, parce que en réalité, tout ça est une histoire de choix. De choix politiques. Il ne s'agit pas de geler la situation. Parce que geler la situation, ça veut dire que le gouvernement refuse de faire des économies. En fait, c'est ça. La réalité, c'est qu'il refuse de faire des économies sur d'autres sujets. Et nous disons, il faut faire cet effort fiscal pour les Français. Et par ailleurs, nous l'avons fait dans le contre-budget que nous avons présenté, il y a énormément d'économies à faire sur ce que nous considérons
alors, vous
être
allez
mauvaises.
Me dire, vous allez me dire où vous feriez-vous les économies, mais quand je regarde nos voisins, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, qui ont baissé les taxes. L'Espagne a baissé la TVA à 10% jusqu'à fin juin. Le coût, c'est 5 milliards. Et fin juin, mécaniquement, l'essence va remonter, mais alors d'un coup. Est-ce que vraiment c'est souhaitable?
Non, mais moi je vais pas, l'essence n'augmenterait pas d'un coup, puisque encore une fois la baisse de la TVA de 20 à 5,5 que nous souhaitons parce que l'énergie est un bien de première nécessité serait pérenne. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est qu'à côté de l'augmentation des carburants, il y a tout le reste.
Mais regardez, l'Italie a baissé effectivement les taxes et juste après l'avoir fait, elle s'est rendue compte que ça lui coûtait tellement cher qu'elle a déjà renoncé à le faire sur l'essence. Oui. Elle ne le fait plus que sur le diesel.
C'est leur problème, mais est-ce que leur taux de fiscalité
est
le même?
Est-ce que vous vous heurteriez pas au même réel que l'Italie?
Non. Est-ce que le taux de fiscalité de l'Italie est aussi important sur le carburant que celui de la France? Donc, parallèlement, encore une fois, au carburant, le fuel a pris 55%. Aujourd'hui, les Français n'arrivent plus à remplir leurs cuves. Ça veut dire que l'hiver prochain, ils ne vont pas se chauffer. Le gaz a pris 20% en un an. Le soufre a augmenté de 90%. De 60%, le bitume de 40%. Vous voyez, il y a un effet cumulatif en réalité qui aujourd'hui met honnêtement les Français dans une situation intenable.
Total va prolonger ses plafonnements, finalement à ce week-end de grand départ de Pentecôte. Mais après, on ne sait pas. Pour l'instant, c'est censé être le dernier week-end. Qu'est-ce que vous dites à Total aujourd'hui?
Ben, c'est bien le problème. C'est pour ça que je préfère qu'il y ait une taxe sur les surprofits plutôt que d'attendre la bonne volonté de Total, qui peut en avoir, mais qui peut aussi décider de ne plus en avoir de bonne volonté. Vous voyez, c'est plus simple, à mon avis, et plus juste de mettre en place une taxe sur les surprofits, c'est-à-dire les profits qui sont générés en été sans... que la qualité de l'entreprise, sa stratégie soit à l'origine de cette augmentation. Et c'est aussi d'ailleurs plus juste que le super IS qui a été choisi, qui est la voie qui a été choisie par le gouvernement et contre laquelle nous étions.
Dans les choix budgétaires qui sont faits, vous dites au fond l'État ne fait pas les bons choix. C'est une question aussi au fond d'attribution de l'argent public. Il y a quand même une chose qui coûte très cher à l'État, c'est la question des retraites. Je voudrais vous interroger parce que je ne sais plus quel est votre programme sur les retraites. retraite.
Ah bon, c'est le même que celui de 2022 en l'état. Donc
vous êtes toujours pour un retour à la retraite à 62 ans, oui, mais... voire 60 pour ceux qui ont commencé à travailler.
Oui, mais
tôt.
En réalité, je crois que Jean-Philippe Tanguy a raison. Cette réforme n'a pas été comprise par nos interlocuteurs. Ça n'est pas une réforme paramétrique. D'ailleurs, on voit que les réformes paramétriques ont toujours été inefficaces. Hein. Plus on demande aux gens de travailler longtemps, plus en réalité le déficit continue. Donc ça n'est pas
ça
la
veut
bonne
quoi,
technique.
Paramétrique.
La bonne, ça veut dire qu'en fait on n'agit que sur l'âge du départ à la retraite. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on règle le problème de la retraite sur les fondamentaux qui sont ceux de notre système de répartition, c'est-à-dire comment on agit sur la productivité, comment on agit sur le taux d'activité en France qui est beaucoup trop bas, et comment on agit sur la création de richesses. Voilà. Et tout ça, c'est un ensemble. Notre réforme à nous, elle part du principe que on n'est pas assez à travailler en France. Et c'est vrai, on n'est pas assez à travailler en France. Notre taux d'activité est 10
donc
points inférieur.
Donc vous voulez que les gens commencent à travailler plus tôt, notamment,
voilà.
et travaillent plus tard.
Donc cette réforme, elle avait deux objectifs. D'abord, c'était faire entrer les jeunes sur le marché du travail plus tôt, parce que ainsi.
Mais ça, tout le monde le veut. Quand vous écoutez le gouvernement,
oui,
qu'il veut bosser sur le chômage des jeunes et le chômage des seniors.
Mais il ne faut aucune incitation. Cette réforme des retraites que nous proposons, qui permet, lorsque vous commencez avant 20 ans, de cotiser 40 annuités et de partir à 60 ans, c'est une forte incitation pour les jeunes pour rentrer sur le marché du travail. C'est une vraie incitation. Donc, il faut que les jeunes travaillent plus tôt. Ça, c'est une absolue certitude. Il n'y a pas que ça. Il y a l'apprentissage, il y a la réindustrialisation qui est nécessaire, il y a la baisse de la fiscalité de production.
Mais dans cet ensemble, Marine Le Pen, vous maintenez un départ à la retraite à 62 ans.
Oui.
Parce que la question a été posée à Jordan Bardella, vous l'avez j'imagine lu, l'interview qu'il a donnée à nos confrères allemands du Frankfurter Allgemeine Zeitung. La question c'est, êtes-vous pour un âge de la retraite plus élevé? Et Jordan Bardella répond, nous examinons actuellement cette question.
Non, ce que nous examinons, c'est parce qu'il nous manque un bout sur lequel ça mérite qu'on travaille encore et on sera prêt pour la présidentielle, c'est comment est-ce que on fait augmenter le taux d'activité des seniors? Parce qu'aujourd'hui, c'est bien gentil de vouloir faire travailler les gens 64, 65, voire 67 ans, comme Monsieur Édouard Philippe le souhaite. Il n'y a qu'un malheur, c'est que les entreprises les virent à 55. Hein, voyez. Donc, je veux dire, pour l'instant, nous sommes en train de réfléchir pour savoir comment on met en place des incitations, soit pour que les seniors aient un avantage à continuer à travailler, y compris à temps partiel, alors qu'ils sont déjà à la retraite, soit pour négocier avec les entreprises pour qu'elles arrêtent, tout en réclamant une augmentation de la durée de travail dans la vie, qu'elles arrêtent les considérer comme inemployables.
Est-ce que c'est
de 60 voire 55
ans. Est-ce que ça veut dire, Marine Le Pen, que si vous ne trouvez pas c'est-à-dire si vous vous heurtez effectivement au fait que en France, même si vous arrivez au pouvoir, imaginons vous êtes élu, mais vous vous rendez compte qu'au fond vous mettez énormément de temps à réussir à prolonger, à faire en sorte que les entreprises gardent en effet comme vous dites non. Les gens activité plus longtemps, ça veut dire que vous suspendrez ce retour
mais
à 62
non,
ans
mais non,
vous le ferez quand même. Vous ferez quoi
tout.
Qu'il arrive.
Cette réforme, c'est une très bonne réforme.
Ok, donc
c'est
vous une réforme. Quoi qu'il arrive, on reste sur les 62
ans. C'est une
ans.
Réforme qui est, encore une fois, juste et économiquement pertinente et performante. Elle est juste aussi parce que il y a quand même une forme d'injustice aujourd'hui. C'est que celui qui commence à travailler avant 20 ans, il va cotiser un nombre d'annuités beaucoup plus importante que celui qui commence à travailler à 30 ans. Et ça, je trouve que ça n'est pas juste.
Mais ça veut quand même aussi dire que celui qui a commencé à travailler à 30 ans, il pourra partir à 62 ?
Oui. Ben non, parce qu'il y a des annuités quand même nécessaires.
Donc vous faites le mélange quand même entre les deux.
D'accord,
c'est pas
mais vous savez qu'à compter de 67 ans, il y a en quelque sorte
vous gardez quand même.
Mais vous comprenez que celui qui commence à travailler avant 20 ans, en règle générale, a un travail plus difficile que celui qui commence à travailler à 30 ans, parce que celui qui commence à travailler à 30 ans a fait des longues études et donc, en règle générale, a un travail.
Il y a une chose que je voudrais comprendre, Marine Le Pen, c'est est-ce que le programme vous dit on sera prêt pour la présidentielle? On sait bien, évidemment.
On améliorera. Si vous voulez, tout est toujours améliorable. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, on ne s'arrête pas en disant on est les meilleurs, on a trouvé un truc génial et donc on arrête de travailler. On travaille tout le temps, en permanence depuis 2022. On a énormément travaillé pour trouver des solutions, améliorer celles qu'on avait d'ores et déjà proposées pour que les choses soient les plus performantes possibles.
Ma question, c'est le 7 juillet, on saura si vous pouvez être candidate à la présidentielle.
Oui.
Et si ça n'est pas vous, on l'a bien compris, ce sera Jordan Bardella. Le programme, que ce soit vous ou Jordan Bardella, il y aura zéro changement?
Je peux pas vous dire ça parce que de toute façon, nous allons être amenés à faire, Jordan et moi, des arbitrages. Là, on démarre.
Si avez-vous la même vision?
Un cycle extrêmement.
Avez-vous la même vision économique?
Oui, je crois qu'on a la même vision économique. D'ailleurs, nous avons défendu le même programme et en 2022 et en 2024, sans que ça pose aucune difficulté. Alors, je sais que le monde journalistique adore essayer de jouer le jeu des sept différences. Ah oui, mais là, il n'a pas utilisé le même terme que... nous avons les mêmes objectifs, nous avons le même projet, nous en discutons. Parfois, nous sommes amenés à faire des arbitrages, nous les faisons ensemble et nous entrons là dans une série de réunions qui vont être nombreuses, lui, moi et nos équipes, pour effectuer les derniers arbitrages.
Ma question est moins un jeu des sept différences que de savoir au fond quel poids vous accordez à l'incarnation pour la présidence de la République. C'est-à-dire, est-ce que au fond le programme, que ce soit vous ou lui, de toute façon il est arrêté et donc ça ne changera rien, ou est-ce que vous considérez que vous, comme lui, vous avez des convictions, vous avez une manière de faire la politique qui est différente?
Mais la manière n'est pas la même. Encore une fois, le fait que nous soyons d'accord.
Est-ce qu'il aura une marge?
Le fait que nous soyons d'accord.
Est-ce que vous en aurez?
Le fait que, évidemment qu'un candidat à la présidentielle a l'intégralité des marges qu'il veut, qu'il souhaite. Mais je crois que pour que on utilise ces marges, encore faut-il avoir des divergences et des divergences profondes. Nous n'en avons pas. Je suis désolé de le dire parce que je sens que ça plairait à certains qu'on ait vraiment des différences considérables. On n'en a pas. Voilà. Et si je suis candidate, il sera mon premier ministre. Vous imaginez bien qu'il est quand même mieux que nous ayons les mêmes convictions.
Mais ce ne sera pas l'inverse, par contre.
Non, ce ne sera pas l'inverse.
Qu'est-ce que vous ferez si le 7, on vous dit que vous ne pouvez pas être candidate?
Eh bien, je ferai la campagne de Jordan Bardella.
Vous n'arrêterez pas, vous ne vous retirerez pas, vous ferez la campagne activement.
Ah oui, bien sûr.
À ses côtés, vous continuerez à être tous les deux.
Mais oui, parce que si vous voulez, je me suis jamais battue pour moi-même. Je me bats pour des idées. Voilà, je me bats pour que nos idées arrivent au pouvoir, parce que je pense qu'elles sont bonnes pour la France et pour les Français. Donc, il s'agit pas de dire je vais arrêter de combattre au motif que c'est pas moi qui suis candidate. Vous savez, j'ai combattu, j'ai défendu d'autres candidats, en moins un autre candidat pendant longtemps.
Jean-Marie Le Pen.
Et demain, si la justice, ce que je considérais quand même comme un déni démocratique majeur, m'empêchait d'être candidate, eh bien, je continuerai à défendre les idées auxquelles je crois.
Vous, présidente, il serait où le Charles de Gaulle?
Moi, ça ne me pose pas une difficulté majeure qu'il soit là où il est actuellement. Je pense que le porte-avions est un élément de puissance de notre pays. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je me suis prononcée pour qu'il y ait un deuxième porte-avions. Je sais qu'un certain nombre de membres du gouvernement ont une vision un peu différente, mais je pense que ce porte-avions, il incarne en quelque sorte la puissance française. Maintenant, a-t-il une utilité autre que celle-là au moment où nous nous parlons? Manifestement non.
Je vais vous poser des questions évidemment sur les ZFE, y compris sur aussi des questions de société, sur ce qui s'est passé la nuit dernière à Paris, mais quand on regarde le contexte, il est évidemment dû à ce qu'il se passe là-bas. Vous, présidente, est-ce que vous resteriez, par exemple, dans le commandement intégré de l'OTAN, ou est-ce que vous le quitteriez, comme c'était votre programme initialement?
Non, je pense qu'il faut sortir du commandement intégré de l'OTAN. Il faut rester dans l'OTAN. Je le redis parce que parfois mes propos sont dénaturés. Il faut rester dans l'OTAN, mais il faut sortir.
C'est une question de gouvernance.
Il faut sortir du commandement intégré de l'OTAN. Et le fait de sortir du commandement intégré de l'OTAN n'empêche absolument pas d'avoir une interopérabilité entre les armées alliées.
C'était le cas
avant que Nicolas Sarkozy ne décide
de réintégrer
le commandement.
Ça veut dire Marine Le Pen que vous le feriez.
La vraie question aujourd'hui, c'est quid de l'OTAN, surtout, vous voyez, au-delà du commandement intégré.
Vous vous interrogez même sur la suppression de l'OTAN? Est-ce que vous seriez favorable à la suppression de l'OTAN, ou est-ce que vous la subiriez?
Non, je ne suis pas favorable à la suppression de l'OTAN, mais j'ai entendu il y a plusieurs années le président de la République dire l'OTAN est une coquille vide, et je m'attendais à ce qu'il fasse des propositions. Moi, j'ai fait des propositions pour que l'OTAN se réoriente dans le cadre de la lutte contre le fondamentalisme islamiste, parce
que je pense que c'est un des plus grands dangers qui pèse sur l'ensemble de nos pays. Bon, donc je propose quelque chose. Lui, il dit, c'est une coquille vide, et puis point. Et donc, en réalité, on dépend de la décision de Donald Trump. C'est quand même un peu regrettable.
Vous quitteriez le commandement intégré de l'OTAN dès votre arrivée au pouvoir ?
Oui, enfin, dès notre arrivée au pouvoir, dans le quinquennat.
Alors, vous allez encore me dire que je joue aux différences, mais c'était pas cette question-là. Mais il se trouve que c'est Jordan Bardella qui l'a dit. Lui, lorsqu'il a été interrogé la dernière fois là-dessus, il dit, on ne le ferait pas tout de suite. Parce qu'on ne change pas les traités en temps de guerre.
Mais oui, mais il a raison. Il a raison. Tant qu'il y a la guerre, et notamment la guerre en Ukraine à l'époque, je pense que ça n'est pas de bonne politique. Mais c'est notre objectif.
Qui seront vos alliés?
Mais
Donald Trump, Giorgia Meloni, est-ce qu'il faut reparler avec la Russie? Est-ce qu'il faut aller en Chine?
Mais madame, il faut parler à tout le monde. Je vais vous dire, en fait, c'est ça le concept même de la diplomatie, c'est de parler à tout le monde. Parce qu'à force de ne plus parler à personne, eh bien, on ne joue plus en réalité aucun rôle. Et là, l'effondrement de l'influence française est aussi lié à une problématique qu'a Emmanuel Macron, c'est que il a tendance à se fâcher avec la terre entière. J'ai souvent l'occasion de dire, il a quand même réussi à se fâcher avec le Maroc et l'Algérie en même temps, ce qui en fait n'arrive jamais.
Il veut se réconcilier avec l'Algérie.
Ou l'autre. Bon.
Il veut se réconcilier avec l'Algérie.
Oui, mais
vous auriez envoyé vos ministres en Algérie.
Oui, non, mais moi, je crois que avec l'Algérie, il n'agit pas de la bonne manière, si vous voulez. L'Algérie est un pays indépendant depuis 1962. Ça fait donc l'Algérie. Indépendante à 64 ans, elle est adulte. C'est une nation souveraine. Mais il faut qu'elle se comporte comme une nation souveraine. Donc, s'il s'agit de se comporter comme une nation souveraine, en respectant le droit international, en arrêtant de faire peser sur la France des responsabilités qui sont la responsabilité du gouvernement algérien sur les difficultés, notamment économiques et sociales, qui sont les siennes. Nous, on est prêts à discuter. Parce qu'il faut discuter avec tout le monde. Mais s'il s'agit de continuer à voir nos compatriotes être traités de manière scandaleuse, comme ça a été le cas pour Boualem Sansal, comme c'est le cas pour Blaise, à se faire cracher au visage, à demander à la France des génuflexions ininterrompues, pour nous, ce sera non. Voilà, c'est aussi clair que ça.
Gérald Darmanin parle d'un éventuel traité d'amitié. Un nouveau traité d'amitié avec l'Algérie.
Mais tout ça, ce sont des mots. Ce qu'il faut, c'est que l'Algérie récupère les OQTF algériens. Voilà, c'est assez simple comme concept. Il faut qu'elle arrête de refuser d'appliquer le droit international. Il faut qu'elle arrête, encore une fois, d'accuser la France de tous les maux, alors qu'une grande partie des responsabilités sont les leurs dans la situation de l'Algérie. Et si elle se comporte en nation mature, en nation majeure, au sens qu'elle n'est pas dans la minorité, elle n'est pas, elle a la majorité, vous voyez ce que je veux dire, il y a très certainement moyen de que la situation s'améliore.
Vous parlez de la question des OQTF.
En l'état, c'est non, voilà.
En l'état, c'est non. Laurent Nunez, qui était mon invité cette semaine, disait que son homologue, c'est-à-dire le ministre des Affaires de l'Intérieur algérien, allait venir probablement la semaine prochaine en France. Est-ce que vous êtes favorable, vous, justement, au pouvoir? Vous seriez pour ce genre de dialogue? Est-ce qu'il faut dialoguer? C'était l'inverse que demandait Bruno Retailleau.
Il faut dialoguer avec toutes les nations parce que ça permet de défendre les intérêts de la France. Donc, il faut dialoguer, mais il ne faut pas s'agenouiller. C'est là où je crois que le gouvernement a du mal à voir la différence. Nous n'avons pas à nous agenouiller devant l'Algérie, qui, faut bien le dire, a à l'égard de la France un comportement qui est éminemment critiquable.
Vous avez vu sans doute les images qui ont été diffusées par le ministre de la Sécurité intérieure israélien, où on voit des militants d'une flottille pro-palestinienne qui ont été menottés à genoux, plaqués au sol, la tête baissée. L'ambassadeur d'Israël en France a été convoqué officiellement par le Quai d'Orsay, même si lui-même, comme Benjamin Netanyahou, condamne les agirs de leur ministre de la Sécurité intérieure. Quelle est la position que doit avoir la France ?
Mais je crois que la France doit condamner ce type de comportement. Ce comportement est inadmissible. Voilà, c'est inadmissible. Et je pense que le gouvernement israélien l'a lui-même admis. Voilà, il faut espérer maintenant qu'il en tire les conséquences.
Il y a 37 Français parmi ces militants qui ont été arrêtés en Israël.
Oui, oui, mais je pense que la France a bien fait d'exprimer sa très vive réprobation de ce type d'agissement.
Marine Le Pen, les ZFE, Bah finalement, c'est rétabli. Le Conseil constitutionnel a rétabli les ZFE, les zones à faible émission, hier, au motif qu'il s'agissait d'un cavalier législatif. En gros, l'idée, c'est que ce soit un morceau de loi qui n'a rien à voir avec la loi principale. Comment est-ce que vous réagissez ?
Bah, je pense que c'est une analyse éminemment politique de la part du Conseil constitutionnel, parce que le fait de permettre à des gens qui sont interdits d'aller travailler, d'aller rencontrer leurs clients dans les grandes villes au motif qu'ils ont une voiture trop vieille, si ça n'a pas de lien avec la simplification de l'économie, je vois pas avec quoi ça a un lien. Donc le Conseil constitutionnel avant avait une vision restrictive de ces cavaliers législatifs. Aujourd'hui, il en a une vision extrêmement extensive. C'est ainsi d'ailleurs qu'il a pu considérer par le passé, il y a quelques mois, que le fait de repénaliser le séjour irrégulier des immigrés n'avait rien à voir avec la loi immigration. Il y avait ni lien direct, ni lien indirect. Bon, ça me pose un problème, moi, je vais vous dire. Parce que quand il a été auditionné, M. Ferrand s'était engagé à quelque chose.
M. Ferrand, c'est le président du Conseil constitutionnel.
Voilà. Le président du Conseil, enfin, à l'époque, le candidat à la présidence du Conseil constitutionnel, s'était engagé à ne pas se prendre pour un législateur et à ne pas se prendre pour un constituant. Or, c'est exactement ce qu'il fait aujourd'hui. Et je pense que le Conseil constitutionnel a tort et affaiblit beaucoup son autorité en se comportant ainsi. Parce que ce que veut le peuple français doit être respecté. Et ça n'est pas par des arguties juridiques du type de celles utilisées par le Conseil constitutionnel qu'il empêchera les Français d'obtenir ce qu'ils veulent. Alors nous allons demander à la présidente de l'Assemblée nationale de d'inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée de la semaine de l'Assemblée une PPL sur la suppression des ZFE pour que l'Assemblée puisse à nouveau exprimer.
Donc vous allez retenter votre chance, j'allais dire, mais ça veut dire qu'aujourd'hui vous considérez que le Conseil constitutionnel, que les juges font de la politique.
Ah bah en tout cas, ils contraignent la démocratie. Enfin, je veux dire, le Parlement est la représentation du peuple français. Or, pour encore une fois, avec des arguments très contestables sur le plan juridique, ils contraignent.
Vous faites du zèle pour vous, le Conseil constitutionnel ?
Oui, certainement. Ils contraignent la volonté exprimée par le peuple. C'est quand même très problématique, parce que c'est vrai sur les ZFE, c'est vrai sur le ZAN, c'est vrai sur l'immigration. Ça commence à faire beaucoup.
Sur la question des nominations, Emmanuel Moulin confirmé comme gouverneur de la Banque de France.
Oui. Bon, on voit bien qu'il y a là une kyrielle de nomination de macronistes à tous les postes qu'il considère comme étant importants, parce qu'en réalité, l'objectif d'Emmanuel Macron, c'est de faire survivre le macronisme après la fin du macronisme. Alors, je vais lui dire quelque chose de très clair. Il n'y arrivera pas. Voilà. Il n'y arrivera pas.
Ça veut dire quoi ?
Ça sert à rien d'aller multiplier les nominations des copains.
Mais une fois qu'ils seront là, vous allez pas les virer ?
Oh, il y en a un certain nombre qu'on peut changer, si, quand même.
Qui vous pouvez changer ?
Non, mais il y en a quand même un certain nombre qu'on peut changer. Je peux vous le dire, moi. Donc, il n'arrivera pas à contraindre, à empêcher l'expression, encore une fois, de la volonté politique du peuple. Parce que ça, c'est très condamnable. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'en réalité, on met
des gens. Vous estimez que c'est antidémocratique ?
Bah, bien sûr, parce qu'on met des gens à des postes qui sont vos copains, en se disant, ils vont être autant d'obstacles à la mise en œuvre d'une autre politique que celle que j'aurais exercée, alors que les Français auront voulu une autre politique. C'est vraiment, je trouve, une manière de voir les choses qui est très antidémocratique. Ouais.
Marine Le Pen, est-ce que Patrick Bruel peut encore donner des concerts comme si
il peut donner des concerts, mais personne n'est obligé d'aller les voir.
Vous n'iriez pas ?
Ah non, moi j'irai pas. De toute façon, j'y serais pas allé, même si
vous y seriez pas allé parce que pas,
non, parce que je l'aime pas. Pardon, j'ai encore le droit ou
non, mais c'est
pas, Bruel, donc vous, il n'aime pas non plus. Vous me direz donc en fait quelque chose quelque part. c'est voilà.
Est-ce qu'il faut aller plus loin, c'est-à-dire pas juste dire il a le droit d'y aller, mais les gens sont pas obligés d'y aller, ou est-ce qu'il faut, comme un certain nombre de maires, s'engager à lui demander vraiment de renoncer?
Ah, mais le problème c'est qu'on peut pas, parce que si on fait ça, on rompt avec l'état de droit. Vous voyez, moi je suis avocat, je sais que ça peut déplaire à certains, mais il y a un principe fondamental dans le droit, c'est la présomption d'innocence. C'est-à-dire que tant que vous n'êtes pas définitivement condamné, vous êtes présumé innocent. Ça n'empêche pas que chacun peut avoir sa conscience personnelle, son intime conviction sur les faits de la cause. Mais en l'espèce, si vous voulez, faire cela, ça veut dire... et c'est lui, ou pour les autres d'ailleurs, ou pour quiconque d'autre, c'est condamner quelqu'un à la mort professionnelle ou à la mort sociale avant que la justice se soit prononcée.
Est-ce que ça veut dire, par exemple, prenons l'exemple de Patrick Poivre d'Arvor. Patrick Poivre d'Arvor, un certain nombre de témoignages de femmes, mais pas de procès, parce que les faits étaient prescrits. Est-ce que vous considérez que Patrick Poivre d'Arvor, en fait, aujourd'hui, il pourrait, et ce serait la présomption d'innocence, aller, je sais pas, présider des festivals de lecture, avoir même peut-être une émission sur la lecture.
Mais encore une fois,
ça vous choquerait pas.
C'est pas la présomption d'innocence. Ça peut me choquer à titre personnel.
Mais ça vous choque à titre personnel.
Moi, je considère que tous ces gens qui se comportent comme, qui sont en tout cas accusés de se comporter comme des porcs avec les femmes, c'est une véritable honte.
Vous êtes très choqué par les témoignages des femmes sur Patrick Bruel.
Évidemment que oui. Mais encore une fois, les principes, ils doivent être appliqués, même quand ils vont, à rebours de votre sentiment personnel. C'est ça la force d'un principe. Et si vous n'appliquez le principe au bénéfice de vos propres amis, mais pas au bénéfice de gens avec lesquels vous n'avez pas de point commun, alors vous n'avez plus de principe. Et moi, j'ai des principes, j'y tiens, et on ne peut pas encore une fois parler de l'état de droit en toutes circonstances sans les respecter. Si ça fait mal, même si ça dérange.
Une trentaine de témoignages et une dizaine de plaintes déposées. Comment vous réagissez? Vous croyez ces femmes?
Non mais moi je suis pas magistrat. Et je ne suis pas chargé de cette affaire. Je n'ai pas entendu en instruction l'ensemble de ces plaignants. Je pense qu'un certain nombre de personnages ont évolué dans des milieux où en réalité bien souvent tout le monde savait peu ou prou qu'il se comportait mal. J'ai entendu une attachée de presse qui évoquait ces sujets-là. C'est pas la première fois. Donc aussi, peut-être, la prise de conscience qui doit être celle de chaque citoyen et de chaque milieu, c'est de se dire, est-ce que on n'a pas fermé les yeux aussi sur ces sujets-là?
Gilles Lellouche a été interrogé sur vous, sur l'ERN. C'était en marge de la présentation de son film, le biopic sur Jean Moulin. Il est interrogé par un journaliste qui se réclame du média Parole d'honneur, qui lui dit, pensez-vous qu'il est aujourd'hui primordial pour ne pas trahir la mémoire de Jean Moulin, de combattre résolument le Rassemblement national? Et il ajoute une seconde question. Pensez-vous également que la France insoumise majoritaire à gauche est aujourd'hui le meilleur rempart à l'extrême droite, son programme étant aussi inspiré du programme du Conseil national de la résistance.
Okay. Et Jean-Luc sort de ce corps.
Et Gilles Lellouche a répondu, elle n'est pas un peu orientée votre question, je n'ai pas de réponse à ça, monsieur.
Bah ouais, il a bien fait.
Il a bien fait.
Bah bien sûr qu'il a bien fait. Enfin, écoutez, l'outrance de la question était telle qu'il a eu raison de ne pas répondre à cela. Enfin.
Mais sur la question, est-ce qu'il faut combattre le Rassemblement national?
Mais est-ce que c'est son rôle? Je veux dire, est-ce que c'est le rôle d'un acteur? Le rôle d'un acteur, c'est de jouer. Le rôle d'un scénariste, c'est de faire des scénarios. Alors, chacun a le droit, comme citoyen, de donner son avis, mais personne n'est obligé de le faire. Et ce qui est incroyable, c'est que quand il refuse de le faire, quasiment il est suspecté de je ne sais quoi. On pourrait avoir un peu de liberté là quand même, où vraiment on est en train de se faire enfermer par l'extrême gauche dans une sorte de procès d'intention permanent. Je trouve qu'il faut combattre ça, parce que la liberté, c'est fondamentalement français.
Une dernière question sur ce qui s'est passé cette nuit à Paris. 65 personnes ont été interpellées, il y a des blessés, 6 blessés dont un grièvement, visiblement un rassemblement de supporters de l'OGC Nice et une bagarre. Est-ce que aujourd'hui on arrive quand même à ce qu'il n'y ait pas trop de débordements autour du foot?
À un moment donné ça s'était calmé, puis manifestement ça repart. Enfin, j'ai envie de vous dire que de manière générale, il faut vraiment avoir une réflexion, nous l'avons eu sur l'aggravation des peines quand il s'agit d'atteinte à l'intégrité physique, parce qu'en réalité, il faut revenir dans nos sociétés à une sacralisation de l'intégrité physique. Aujourd'hui, il n'y a plus de sacralisation de l'intégrité physique, c'est-à-dire que on tape, on frappe, on manque de tuer, tout ça pour un regard, une cigarette ou un désaccord sur le football. Là, il faut vraiment être très rigide, parce que c'est un danger majeur, je crois, pour notre sécurité de peuple.
Merci Marine Le Pen d'avoir répondu à mes questions ce matin. Vous êtes bien sur RMC BFM TV.